parler, c'est déjà avancé. La nuit, la parole est libre. Un secret partagé est toujours plus facile à porter. 21h, 23h, Confidence. L'émission Sans Tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Bonsoir, chers amis, et bienvenue sur Beurre FM. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine, un bon début de semaine. Nous sommes lundi 13 mars 2023. Et oui, le temps passe. Et puis on se remet pas en question et on recommence toujours les mêmes erreurs. Vous allez comprendre pourquoi. 01 53 48 3000. Allez, on se dépêche. On appelle le standard. Eh bien, c'est Giovanni. Tu vois, j'ai toujours Giovanni en tête.
Giovanni.
Pas pourquoi. Bah ouais. Anthony, bah oui, vous avez des prénoms qui se terminent par I, vous aussi.
Bah merci la nature.
Donc. C'est la nature qui vous a donné vos prénoms. Non, c'est ton père ou ta mère, je crois. La nature à la Bordeaux.
Ouais, mais ça permet d'avoir des prénoms riches et variés.
Voilà, riches et variés. Ah, il a bien retenu la leçon, hein, dis donc.
Ah bah, c'est sûr. Aussi bien dit par toi, Vanessa.
Je sais pas si t'en fais des rêves ou des cauchemars la nuit de riches et variés. Riches et variés, mais bon.
Mais tu sais qu'à l'école, j'en ai créé un jingle, hein.
Ah ouais?
Des musiques riches et variées.
C'est pas vrai. T'as fait ça à l'école?
Ah ouais.
Non, mais on parle de l'école de journalisme, là où il est. Hein. De l'audiovisuel, plus précisément. Ah ouais, carrément. Ah, bah écoute.
J'ai fait un bon truc, hein.
Ah ouais?
Mais bon, ça rend mieux avec ta voix, tu vois. Faudrait que je t'enregistre et que.
Bon. Bah écoute, avec grand plaisir. Et d'ailleurs, je t'autorise à utiliser riches et variées.
Voilà. Bah écoute.
Malgré que c'est déposé à l'INPI.
On fera ça alors. Juste avant de prendre l'antenne. Il fera plusieurs riches et variés.
Voilà, très bien. Bah, écoute,
très beau pull orange.
Si ça pourrait te porter bonheur. Ah oui, tu crois? Ah, tu trouves? Ouais, orange, je voulais un peu d'orange dans cette grisouille là. Il fait. Oh là là,
bizarre le
temps maussade. Ah oh, ouais. On l'attend de pied ferme le printemps. Hein, c'est dans quelques jours, hein, paraît-il.
Ah, tu sais qu'à Nice, ils avaient un temps ce week-end là pour le Paris-Nice, 24 degrés.
Rien que ça. Ben ouais, oh, si tu veux, on peut pas tous aller s'agglutiner à Nice, hein, si tu veux. La Terre, elle. Tu sais, si on allait tous là où il fait du beau, où il fait beau temps, ben elle risquerait de basculer, hein, déjà que bon.
C'est déjà pas loin.
Ouais, déjà qu'elle bascule pas mal. Hein. Ça bascule pas mal à Paris. Papa. Bon, bah écoutez, c'est la joie et la bonne humeur sur les ondes de Beurre FM. Chers amis, comme tous les jours, hein, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. On essaye de vous apporter de notre bonne humeur et surtout d'essayer de vous faire oublier vos petits tracas quotidiens. Voilà, qui font partie des aléas de la vie. Et n'oubliez pas, il n'existe pas, il n'y a pas de problème sans solution. Allez, la vie est trop courte pour se prendre la tête. 01 53 48 3000. On y va, faites-moi plaisir, remplissez-moi ce standard. Babacoum. Alors, je vais vous présenter un sujet. Je propose seulement, vous en ferez ce que vous voudrez, vous pouvez parler d'autre chose. Venez vider votre cœur. Peut-être un cœur qui s'est un peu chargé ce week-end, hein, pourquoi pas, voilà. Donc, venez vous décharger. Puis venez surtout aussi demander quelques conseils. Voilà, conseils... On est là pour vous remonter le moral, vous apporter un peu de baume dans le cœur, hein, tout ce qui vous manque. On est là pour ça et on sait faire, vous inquiétez pas. Allez, 01 53 48 3000, c'est tout ce que je vous demande de faire. Voilà, juste de faire le numéro du standard de Beurre FM. Mais avant de vous présenter le sujet et de vous donner la parole, chers amis, vous savez que les premiers arrivés, les premiers servis, hein. Vous savez comment que ça se passe, d'accord? Venez pas pleurer à la deuxième heure, on n'a pas pu passer. Eh bien, tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour nos amis qui sont souffrants. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Ainsi qu'à vous qui êtes hospitalisés ou seuls chez vous. Une pensée également aux personnes incarcérées. Et on n'oublie pas, vos familles. Eh oui. Une pensée aux personnes qui travaillent de nuit, les courageuses et les courageux de la nuit, du soir. Voilà. Une pensée aux personnes qui n'ont pas de domicile fixe, aux sans-papiers, aux réfugiés, aux animaux. Une pensée à tous les terriens sans distinction aucune. Voilà. Les animaux, souvent, les gens les oublient. Là, en ce moment, je sais pas, j'ai vu qu'il y a des chiens de compétition. Ils ont été apparemment empoisonnés, ou je sais pas. Enfin, je n'ai même pas lu jusqu'au bout l'article tellement ça me révulse. Vous savez comment ça me retourne le cœur quand il s'agit d'enfants et d'animaux. Les êtres innocents, les plus innocents qui soient sur cette terre, mon Dieu. Comment on peut faire tant de mal à des animaux ou à des enfants, tout court. Ben ouais, je comprends pas. C'est un truc chez moi, je comprends pas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités par leurs parents. Hein. Ah oui, il y a des parents qui sont... Parce qu'on dit, les parents, c'est sacré. Non, c'est pas sacré, les parents. Les parents font juste leur devoir. Hein. Il manquerait plus qu'ils s'occupent pas, qu'ils assument pas. Non, quand on met au monde des enfants, moi je suis parent, hein. Quand on met au monde des enfants, ben on assume. Voilà, tout simplement. On n'est pas sacré, puis on leur fait surtout pas de chantage à 2 centimes, là, en leur disant oui, je t'ai mise au monde, mais t'as rien demandé. Pardi. C'est marrant, ça. C'est vrai. Il y a des parents, ils le font, je vous l'assure. Ils disent oui, mais tu me dois respect, tu me dois ceci, tu me dois je sais pas quoi. Je t'ai mis au monde. Rien du tout. Non. C'est voilà. Rabbi nous a donné la méthode de mettre au monde des enfants. Mais les enfants lui appartiennent. La vie lui appartient. Voilà, c'est, la vie de vos enfants ne vous appartient pas. Vous devez assumer. Alors donc, pas de chantage à 2 balles à vos enfants. Faut assumer. Quand on fait des enfants, c'est pour leur donner de l'amour, une bonne éducation, une éducation. Voilà, pour pas que la société en pâtisse. Pourquoi l'éducation ? D'abord pour eux, pour vous aussi, hein. Et puis surtout pour la société, parce qu'on n'a pas à souffrir de la mauvaise éducation des autres. Hein. Quand on éduque bien ses enfants et que les autres, s'en fiche complètement, hein, et ben voilà, enfin c'est terrible. Hein. Vous avez vu cette dame, je présenterai le sujet après, vous savez que je mélange tout moi, mais c'est pas grave, vous commencez à me connaître. D'ailleurs la vie c'est une tchouk-tchouka, alors je vois pas pourquoi moi je serais pas une tchouk-tchouka. Oui, vous avez vu ce qui s'est passé, on vit dans un monde, mais c'est pas possible, hein, et barbare, et avec des monstres qui se cachent dans la société, hein, voilà, ils se noient dans la foule, hein, dans la masse, et on ne sait pas qui et qui fait quoi. Vous vous rendez compte, hein? Souvent, ils ont des masques, hein, des masques d'ange et tout, Zama. Mais c'est terrifiant, hein, terrifiant, terrifiant. Vraiment. Et ça s'est passé à Clichy-la-Garenne. À Clichy-la-Garenne, alors, c'est un individu, voilà, qui a 20 ans, vous imaginez, qui est déjà connu de la police, puisqu'il a déjà connu pour agression sur mineur, déjà, bonjour le CV, et qui tente de cambrioler, rentre chez une, je crois c'est une de ses voisines, alors une dame, tenez-vous bien, de 96 ans, dans 4 ans, Inch'Allah, elle aura 100 ans, un siècle, c'est-à-dire vraiment... Une vieille mamie, quoi, voyez-vous, et qui a du mal à se déplacer, bah oui, à cet âge-là, qui est malentendante, qui n'entend pas, qui, voilà, les mots MAUX de son âge, voilà. Eh bien, cette mamie, Mskina, elle, il y a un intrus qui rentre chez elle, voilà, cet intrus de 20 ans, qui s'introduit en pleine nuit, hein, à son domicile, vous imaginez, hein. Elle n'entend pas Mskina. À son âge, elle perd un peu l'ouïe, tout ça, voilà. Et donc, il rentre pour la cambrioler. Il se contente pas de cambrioler ce tordu, là, hein, parce que cambrioler, déjà, c'est moche. Peu importe l'âge des victimes, mais on va pas chez les gens, on viole pas leur demeure et on va pas prendre ce que les gens ont gagné à force de leurs bras et de la sueur de leur front. Mais déjà, en plus, cette dame, elle a 96 ans. Et vers 4 heures du matin, donc, il rentre. Vous imaginez, Mskina. Donc, elle sort de son sommeil parce que, pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi. Parce que, tout simplement, il l'a violée. Oui. Il est obligé. En plus, non seulement il l'a violée, mais je vais être cru, hein, parce que, la réalité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et il l'a obligé à lui faire une fellation. Vous imaginez? Hein? Voilà, et il l'a violée. Voilà. Une vieille dame de 96 ans qui peut être, on va pas dire sa mère, 96 ans, il a 20 ans. Son arrière-arrière-grand-mère, c'est-à-dire arrière-arrière-grand-mère, qui pourrait être la grand-mère de sa grand-mère à lui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous imaginez un peu? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Voilà. Et ensuite, il a menacé de la tuer si elle lui montrait pas si elle avait des objets de valeur quelque part et tout. Tout, quoi. Tout, la totale. Parce qu'il a 96 ans, comment parce qu'il a, elle continue le reste de sa vie? Vous imaginez? Elle a 20 ans. Mais, je sais pas, moi, comment on éduque? Comment? Je sais pas. C'est pour ça, moi, je dis, l'éducation, c'est important. L'éducation, Yarbé. L'éducation. Il n'y a rien de mieux, mon Dieu. L'éducation. Parce que tout passe par l'éducation. Les parents doivent inculquer à leurs enfants des valeurs sociales et morale. Ils ont, comme je l'ai écrit sur mon mur de Facebook, ils sont, justement, les parents, le regard sur le monde extérieur dès la naissance de leur enfant. À travers leur regard, ils voient la vie, l'enfant. Ils voient ce qui se passe dans ce monde. C'est le premier, si vous voulez, c'est la première porte ouverte sur le monde, c'est les parents. Donc si on veut apprendre aux enfants à être responsables, honorables, respectueux, bienveillants envers les autres, moi j'ai envie de dire juste une chose. Ben, les parents doivent être également eux-mêmes, eux-mêmes doivent apprendre ces principes, voyez-vous. Voilà, parce que c'est à eux de donner l'exemple. Si nous, parents, eh bien, nous sommes respectueux envers l'autre, envers les autres, si nous sommes bienveillants et si nous nous comportons bien en société, eh bien, nos enfants vont nous imiter, parce que les enfants, ça imite. Ils nous imitent, voilà. Donc, l'éducation, c'est tous les jours et tout le temps. Ça ne s'arrête jamais. Moi, je connais des parents, j'en ai autour de moi, qui n'arrêtent jamais leur éducation. C'est-à-dire du berceau, même pas du berceau, de la naissance de l'enfant. Jusqu'à la fin de leur vie, ces gens, c'est jusqu'à ce que les parents partent de ce monde. C'est-à-dire, même si les enfants, ils ont 30, 40, 50, 60, peu importe. Mais ils sont toujours là à montrer derrière leurs enfants en disant ça c'est pas bien ou ça, machin, etc. Peu importe l'âge. Parce que c'est comme ça, c'est un effet. Si vous voulez, ça devient instinctif. Et on peut pas s'empêcher d'être parent, même si on a 70 ou 80 ans, on peut pas s'empêcher d'être parent. Et on est toujours là derrière ses enfants, même s'ils sont eux-mêmes grands-parents, mais on est là à leur dire oui, mais tu devrais quand même faire ça, t'aurais pas dû faire ça, etc. Parce que c'est ça. Vous voyez, parce qu'on a pris cette habitude et on va jusqu'au bout de notre vie. Être parent, eh bien, ce n'est pas juste être géniteur, mettre au monde des gamins. Et puis les laisser comme ça, livrer à eux-mêmes, à la société, et dire, oh l'école, hein, mais c'est pas à l'école d'éduquer vos enfants. L'école, elle instruit, elle apporte le savoir. Mais c'est à nous d'éduquer, pour le bien de la société, pour eux aussi. C'est à nous, parents. Voilà. Donc, il faut qu'on assume, il faut que les parents assument. Chaque instant, il faut que les parents soient vigilants. Vraiment. Moi, je dis, vous savez, il n'y a pas d'intrusion. Il faut, par exemple, fouiller les poches d'un enfant qui est mineur, quand on est parent, eh bien, c'est pas une intrusion, parce qu'il y a des parents qui disent, ah non, par respect. Quel respect? Est-ce que vous ne savez pas la tentation, c'est pas l'influence de l'extérieur? Oui, c'est bien de fouiller les poches de ses enfants. Oui, leur chambre, on sait jamais. Il y a un truc qui est caché, qui fume en cachette et tout, et que c'est de la drogue ou autre chose, ou qui cache de la drogue pour les copains qui la revendent eux-mêmes, etc. Peut-être qu'ils sont aussi, forcés à le faire ou menacés, donc ils cachent, etc. Sait-on jamais. Donc il faut être vigilant. Être parent, c'est vraiment, vraiment pas de tout repos. Être parent, eh bien, c'est un travail 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand on dort la nuit, on dort avec un œil seulement fermé et l'autre ouvert. Sinon, on fait pas d'enfant. Voilà. Sinon, on fait pas d'enfant. Sinon, c'est pas la peine de ramener des oiseaux, des poissons rouges, que sais-je encore. C'est fou. Non, c'est vrai, regardez. Cette dame, ce qui est à 96 ans. Vous n'allez pas me dire l'éducation quand même. Et d'autres. Je veux dire, quand on a des parents qui sont derrière vous, en permanence, qui vous apportent, qui vous apprennent la bienveillance d'autrui, le respect d'autrui, le respect des personnes jeunes ou âgées. Que voulez-vous que ça donne après? Après, c'est fini. Après, le pli, il est pris, l'enfant, il est respectueux. Il est respectueux. Parce que les parents ont toujours été derrière. Tu respectes les personnes. La personne âgée, tu lui prends son panier, tu dis, madame, je vous porte votre sac, etc., votre panier, si elle habite au cinquième étage, ou j'en sais rien. Eh bien, vous aidez. Voilà, vous êtes là pour aider. C'est ça. Apprenez le respect à vos enfants. Bon sang, bonsoir. Ben, c'est pas possible, ça. C'est incroyable. Non, moi, quand je lis des trucs comme ça, moi, ça me met en rogne, hein, vraiment. Hein. Vraiment, j'étais dans une colère noire. Qu'on vienne pas me dire, non, il a eu une très belle éducation. Non. Quand on éduque très bien ses enfants, je suis désolée. Quand on est derrière eux, c'est fatigant, hein. Mais, alors, à l'heure, ils ont pas demandé à venir au monde, les enfants. Ils nous ont pas demandé, hein. Donc, à nous d'assumer. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y en a qui sont maltraités, des enfants aussi. Alors, après, ils reproduisent, ils deviennent violents eux-mêmes. On marque une petite pause et on revient juste après, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, alors j'avais un autre sujet mais on le laissera pour demain. Là on va parler de l'éducation, on va parler de la barbarie, hein, de notre société, hein, où de temps en temps vous avez un sauvage comme ça qui sort de nulle part et qui commet l'innommable. Eh oui, parce que violer une personne de 96 ans, il faut le faire quand on a 20 ans en plus, vous imaginez, C'est quoi cette perversité? C'est même pas perversité, c'est pire que ça, parce que le mot n'existe pas dans le dictionnaire. Il faudrait qu'on invente des mots. Terrible. Alors, on a Hakim qui nous appelle du 69. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Vanessa, comment vas-tu?
Bah écoute, un peu révolté, hein. Tu te rends compte, Mskina, cette pauvre vieille femme.
Ah bah, c'est cette société. Avec elle, Mskina, bah oui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'elle a dû endurer pendant ce temps.
Mais attends, il l'a violée, quoi. Mais t'imagines, déjà, il rentre pour la cambrioler. Déjà, la peur à 4h du matin, t'imagines la frayeur qu'elle a eue, reçue, Mskina. En plus, il la viole. Mais c'est inimaginable.
Plus, bah oui, il a
96 ans.
En plus, ça peut être son arrière-grand-mère.
Ah, mais pas son arrière. Arrière-arrière. Ça peut être la grand-mère de sa grand-mère. 96, 100 ans, elle a. Ah, oui, elle a 20 ans. Elle peut être son arrière-arrière-grand-mère. Loin dans le temps. Mais c'est juste pas possible. Ça me met dans une colère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont où les parents de ces gens-là? Ils ont fait quoi dans leur vie? C'est quoi le bilan de leur éducation?
C'est que ça a failli quelque part. C'est qu'il y a eu un souci au niveau de son éducation. Ou c'est que... Ou les parents n'étaient pas présents pour lui, ou il y a eu quelque chose, tu vois.
C'est incroyable. C'est-à-dire que les gens, ils mettent au monde des monstres, hein, dans cette société, et nous, on doit payer, quoi. C'est-à-dire que nous, on éduque bien autour de nous pour que la société, tout ça, se passe bien, et les autres, ben voilà comment. C'est fou.
Moi, Vanessa, regarde, je veux dire, je travaille dans tout ce qui est matériel médical ici au niveau de Lyon, tout ça.
Ouais.
Et tu sais, quand je rentre dans des EHPAD, des hôpitaux, où je vois des personnes âgées, tu sais, qui sont malades, qui sont fatiguées.
Bah ouais.
Wallah, il prafie al-hal. Wallah, tu sais quoi, ça me reste quand je les vois, tu sais.
Bah oui,
j'aime bien parler avec eux. Ouais. Je leur fais un peu changer de comment te dire.
Oui, leur changer un petit peu les idées, tu vois. Ça, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout à ton honneur.
Je sais pas qu'est-ce qui lui est passé dans la tête déjà pour aller. Déjà, la cambriolée, c'est une faute. Mais en plus, tu violes encore une vieille personne.
Mais c'est incroyable. 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 C'est vrai que c'est choquant. Un viol par lui-même est choquant. Mais une personne de 96 ans, là, tu te dis... Ça y est, on a vraiment atteint le summum, vraiment de la barbarie dans notre société.
Ah, mais là c'est encore beaucoup plus haut là, parce que.
Ah ouais. Moi je dis aux parents, éduquez vos enfants, ahmabekoum. Ou alors, ou alors prenez la pilule. La pilule ça existe, c'est pas fait pour les chiens la pilule. La pilule c'est gratuit. Ah oui. Prenez la pilule. Arrêtez de arrêtez si vous n'arrivez pas à assumer.
Maintenant, c'est pas possible. Il y a tout ce qu'il faut, hein, tu sais. Au niveau homme, au niveau...
Non, il y en a, ils sont contents. Oh, j'ai mis au monde un garçon, tu parles. Ceux qui savent assumer, éduquer, tbarakallah, celui qui éduque son enfant, mais celui qui fait des gosses et que voilà ce qui se passe et tout ça dans ce monde de barbares, non, qu'on vienne pas nous dire, l'éducation, c'est important. C'est important, parce que quand on est derrière son enfant, laisse-moi dire que, hein, quand on est derrière lui... on lui apprend les valeurs, les principes, le qadr.
Ben c'est ça. Mais quand t'as les parents derrière et que, par exemple, ben, je sais pas si t'as connu ça, Vanessa, tu sais, quand t'as des invités à la maison, ta mère te dit, c'est mis à la halte, vite. Tu vois ce que.
Ben dis donc.
C'est non, le respect, tu vois, c'est va embrasser ta tante, va embrasser les femmes, tu vois.
Et ouais, ça va au-delà de ça. Et dehors, à l'extérieur, tu respectes les gens dehors. Bien tu sûr, te tiens bien dehors.
Ça, c'est vrai.
Voilà.
Tu vas dehors et te dit bonjour, bonjour.
Ne manque pas de respect aux gens. Et puis, derrière eux, être complètement, faire la morale tous les. Tu sais qu'être parent, c'est très difficile. C'est usant. Il y a un proverbe algérien qui dit Make barras y chibras. Je le traduis. Pour qu'une tête grandisse, c'est-à-dire que un être humain devient adulte, eh bien une tête,
cheveux blancs et
voilà,
blancs.
voilà, ses cheveux deviennent blancs. Celui qui éduque, voilà, ses cheveux, il te fait devenir, voilà, il te fait. Mais oui, bien sûr, il faut être derrière, éduquer la bienveillance. Et puis les parents, ils se doivent respect aussi. Parce que si à la maison, c'est des noms d'oiseaux, les parents, ils s'insultent. Ah, il y en a qui restent ensemble. Ah, oui. Qui restent ensemble, mais qui ne divorcent pas. Par contre, ils s'insultent. Ils se disent des vulgarités. Ils se lancent, ils se bagarrent, etc. Les enfants vivent dans la terreur. Et après les enfants, qu'est-ce que ça donne? Ben, ils se construisent mal. C'est-à-dire qu'après, plus tard, ils deviennent violents eux-mêmes. Ils font n'importe quoi, ils sont déboussolés. Alors donc, et quand tu dis à ces mères, pourquoi t'es restée, regarde, t'es en train de
bousiller la vie de tes enfants. Hein,
voilà, et puis...
Ça les choque.
Et en plus, tes enfants vont reproduire. Alors, souvent, les mères te disent, non, je reste pour les enfants. Ça, c'est pas vrai.
Non.
Reste pas pour... C'est égoïste de dire ça. Parce que justement, si tu pars, moi je dis aux femmes, si tu pars, justement, pars pour tes enfants. Pour protéger l'éducation de tes enfants.
Moi, je respecte toutes les femmes. Qu'elles soient de n'importe quel monde, je respecte toutes les femmes. Mais rester avec un mari qui l'insulte, qui la rabaisse, elle en rajoutera derrière. Parce que, voilà, elle ne va pas se laisser faire. Et que les enfants sont devant, personnellement, il y a un choc devant à l'enfant, et l'enfant, il va se dire, si mes parents c'est comme ça, je suis tout permis.
Et puis, l'enfant, je veux dire, il évolue dans une ambiance insécurisée parce que, il se sent pas en sécurité. Et qui fait que, par la suite, il y a un traumatisme qui s'installe en lui. Et plus tard, il devient forcément violent. C'est ça, la délinquance.
Il devient violent, délinquant, il fait toutes les conneries du monde. Et après, il trouve aucune épaule pour pleurer.
Voilà, donc,
faire des trucs aussi graves que ça, violer une personne à 96 ans, je sais pas, il a pas de cœur.
Voilà, Hakim, on n'en peut plus.
Mais bon. C'est vraiment, déjà, je suis tout cœur avec la personne, je lui envoie toutes mes pensées positives.
Tu te rends compte, terminer comme ça sa vie, la pauvre femme, mon Dieu, quelle horreur.
Bah ouais, c'est...
Quelle horreur.
Je pense que du côté, elle se dire, j'ai plus rien à faire ici, quoi.
C'est-à-dire que, je sais pas ce qu'elle se dit, mais t'imagines comment terminer ses vieux jours à 96 ans, partir avec des images pareilles, et puis un traumatisme pareil, un vécu pareil. Je veux dire, c'est terrible, c'est terrible, terrifiant, c'est... Enfin.
Ouais, c'est ça.
Hakim, merci en tout cas d'être passé ce soir.
Moi, je te rappelle, Vanessa, je t'avais appelé vendredi soir et on avait parlé, tu sais, par rapport à moi. Je ne sais pas si je te rappelle.
Si, j'ai eu deux Hakim déjà, Paris et toi. Toi, tu m'avais parlé de quoi déjà, c'était...
Je te rappelle, moi, c'était par rapport au niveau de l'adoption, tu sais, au niveau héritage.
Ah ouais, t'as 25 ans, je me souviens. Et tes sœurs qui te disent, qui parlent d'héritage et tout, parce que toi, t'as été adopté, le café là, et qu'on te rappelle à chaque fois, c'est déjà qu'on t'a... on t'a, grâce à nous, t'es venu en France, grâce à nous, on t'a adopté, machin, etc. Enfin, on te le rappelle à chaque fois, déjà, comme je le disais, être adopté, c'est pas évident.
C'est vrai.
Une adoption, être un enfant adopté, c'est il y a un passé, tu vois. Même si on adopte un enfant dès la naissance, mais il y a quand même ce traumatisme du passé parce qu'il y a la mémoire génétique quand même qui est là en nous, malgré tout, tu vois. Même si toi t'as pas la mémoire consciente, mais ton subconscient a cette mémoire, c'est compliqué.
Bien sûr, ça reste toujours.
Voilà. Et en plus on te le rappelle à chaque fois. Et en plus ça parle d'héritage, mais quelle horreur, mon Dieu.
Ah, mais tu sais, Vanessa, là, ce week-end, ils m'ont fait des belles et des prunes.
Encore? Ça a recommencé? Oh là là.
Tu sais, ça devient tout le temps. Tu vois, maintenant, c'est presque souvent. Bon,
tu sais quoi, Hakim? Bouge-toi les oreilles et évite-les. Évite-les parce que...
C'est ce que je fais.
Est-ce que tu as une amie ou un ami ou quelqu'un de l'extérieur où tu peux vider ton cœur? C'est important.
Mais tu vois, Vanessa, c'est... En fait, t'as vu, quand je t'avais appelé vendredi au soir, c'était en fait, je me suis ouvert, en fait. Ouais, j'ai dit, il faut que j'en parle, parce que...
Oui.
J'ai eu des problèmes
c'est bien.
Au niveau, tu sais, maladies médicaux et tout ça. Ça m'a... En fait, moi, je suis une petite boule de nerfs, mais j'aime bien, enfin, je garde en moi, tu vois, je garde tous mes nerfs en moi. Et récemment, j'étais au niveau de l'hôpital, tu vois, par rapport à tout ça, tu vois, ça m'avait usé, j'étais fatigué, je suis resté une semaine là-bas par rapport au niveau cardio. Et pour te dire, une fois, il y a une de mes sœurs qui est venue me voir, qui m'a dit, oh, t'inquiète, il te reste un virage et tu vas le passer, et on t'emmènera au bled dans un cercueil, tu vois.
Oh mon Dieu, non, mais c'est énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est monstrueux de dire des choses pareilles.
Oh. Du coup, tu vois, après, moi, je me suis dit, bon, écoute, garde ça pour toi, garde. Après, ça m'avait empiré au niveau de mon état.
Oui, c'est pas possible de garder ça.
Et à un moment, bah, là, ce week-end, pareil, elle m'a remis ça sur la table et tout. Je lui dis, bah, écoute, tu sais, je lui dis intelligemment. J'ai dit, t'avais pas donné ton avis, et c'est aux parents qu'ils ont eu l'avis de décider d'adopter un gamin. Bah, écoute, moi, alhamdoulilah, j'ai mes parents devant moi, je les vois. Ben, là, c'est tes parents à toi à 100%, ben, pour moi, c'est à 1000%.
C'est beau ce que tu dis, Hakim, vraiment. Tu as fait une résilience. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Hakim?
Moi, je travaillais dans tout ce qui était matériel médical. Tu sais, je fais des installations de vie, tout ça.
Tu sais, Hakim, tu vas prendre une revanche dans la vie. Ta revanche, tu sais ce que c'est? Tu vas rencontrer, Inch'Allah, une gentille petite femme. C'est important. Moi, je dis toujours gentille parce que gentil, c'est devenu aujourd'hui, tu sais, quand tu dis gentil, on te rit au nez parce que c'est devenu péjoratif. Oh, gentil, ça veut dire bébête. Non, une gentille femme.
Il y en a toujours.
La gentillesse, c'est très, moi, pour moi, c'est une vertu, c'est une qualité. Donc, une gentille. Un rabbi te l'enverra, Inch'Allah, une gentille femme.
Amen,
et que tu fondes ton foyer et tu auras tes enfants à toi, ta chair et ton sang. Tu vois, tu laisseras quelque chose après et tu vivras longtemps. Tu seras grand-père et arrière-grand-père, Inch'Allah, et que vous ferez une longue route avec ta petite famille. C'est ça qui est important. Tu vas construire ta famille. Tu sais, eux, ils resteront avec leur conscience parce que ce qu'ils t'ont fait, Rabbi Raïchou, enfin, wakillah. Mais, voilà. Mais toi, toi, Jarhul Kalbek, c'est-à-dire qui t'ont blessé ton cœur avec des paroles aussi violentes et aussi assassines, parce que c'est cruel de tenir des propos pareils, pas pire cruauté, mon Dieu. Et tu sais que dans l'islam, il est dit, celui qui adopte un enfant, qui l'élève, eh bien, Andorbe, c'est beaucoup plus important que celui qui met au monde un enfant. DNA, tout est prévu dedans, mais les gens, ils ne suivent pas. Et après, ils te disent, nous, on est ceci, nous, on est croyants. Croyants en quoi? C'est les actes qui comptent, mais les actes, mon Dieu, qui ne suivent pas. Mais toi, t'es une belle personne, Hakim, et tu le sais, tu t'en sors très, très bien.
Je te remercie.
Vraiment. Ta mère, là où elle est, peut-être qu'elle n'est pas de ce monde, on ne sait pas, tu sais.
Non, mais c'est pour ça que moi,
voilà.
Moi, je reproche pas ma mère. Je reproche pas ma mère ou mon père.
Peut-être bien sûr.
Qu'il s'est passé. Moi, tu sais, je suis né en pleine décennie noire.
Ah là là.
Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je ne sais pas ce qui lui est arrivé à ma mère.
Oh, mon Dieu.
Mais je garde en tête. Je dis, ma Balek, ça pouvait être une très très bonne personne. Mais ma Kadratlish, elle ne pouvait pas. Le Dorov ou là. Avec ce qui s'est passé.
La décennie noire, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais pas dire tout ce que je pense, il s'est passé beaucoup de choses. Et il y a des enfants qui sont nés de ça parce que justement, il y a eu des monstres qui sont passés par là.
C'est ça.
Alors donc, toi, tu viens déjà d'une histoire douloureuse. Tu es né en pleine, cette décennie malheureuse en Algérie, les années 90. Donc, même si tu l'as pas connu parce que tu es né à ce moment-là, mais encore une fois, dans ta mémoire génétique, ce qu'on appelle ton subconscient, lui s'en souvient. Donc, il y a la douleur qui est toujours là, et les autres viennent en ajouter en disant des insanités pareilles. Mais mon Dieu, comment ces gens-là ont... Mais quelle conscience ils ont ! Quelle conscience ! Comment ils peuvent dormir la nuit ?
Ils n'ont pas.
Ah non, du tout.
Ils n'ont pas de conscience, c'est qu'ils dorment, tu vois, pour eux, c'est la vie, c'est aussi simple qu'ils pensent, mais comme on dit, la roue, elle tournera toujours. Et
le
jour où elle va tourner, ça sera fatal. Et pas pour eux. Et puis après, ils auront que leurs épaules pour pleurer. Quoi.
Et puis, tu sais, l'héritage, tout ça, c'est vrai que chez nous, le café là, moi, ça, c'est un truc que je comprends pas. Mais bon, bref. Mais ils peuvent faire un papier, tes parents, paraît-il. Mais il y a un truc qu'il faut savoir. C'est que l'héritage, OK, c'est... L'héritage, c'est quoi? C'est du matériel. Mais est-ce qu'on l'emporte avec nous? Comme je te l'ai dit vendredi, Pharaon.
On n'emporte rien.
Pharaon, il était son propre héritier parce qu'il n'y avait pas plus riche que lui. Il avait tout l'or du monde, Pharaon. Et il pensait que dans l'autre vie, tellement il était avide de matériel et d'or, et tellement il se prenait pour... Parce que Pharaon, il se pensait Dieu sur terre. Hein, il croyait qu'il était Dieu sur terre.
C'est ça.
Alors, donc, il se pensait tellement Dieu sur terre qu'il pensait qu'il était immortel. C'est-à-dire que le jour où il partait de ce monde... Il partirait avec son or ailleurs, il en profiterait. Eh ben non. Eh ben Bekalo, attends. Eh bien, quand il est mort, Pharaon, des siècles plus tard, il y a eu des gens qui ont fait des fouilles, qui ont trouvé les pyramides. Ils ont creusé, ils sont rentrés à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé de la poussière, Pharaon, poussière, ou alors, classe, ou des momies, une chef. Mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé l'or. L'or qui est resté. Parce que vous sortez pas de Denier. L'or reste. Le matériel reste. Il y a des rois qui sont morts. Il y a des empereurs qui sont morts. Il y a des grands chefs d'État. Il y a eu des ultra milliardaires qui sont morts. Oui. Ils ont fini en poussière, bouffés par les vers. Et qu'est-ce qui reste? Ben, leur bien, il est resté fait de Denier. C'est tout.
Les gens s'embrouillent par rapport à ça.
Mais oui. Et qu'est-ce qu'on prend avec nous? Ah. Le bien et le mal qu'on fait. Ah, ça, oui. Voilà, t'as tout compris, mon grand.
Voilà.
Toi, Hakim, tu fais du bien. Ne t'inquiète pas. Continue à rester quelqu'un de bien. Tu as 25 ans, tu es jeune. La vie, elle est devant toi. Tu es sérieux, tu travailles, tu parles vraiment comment tu m'as parlé tout à l'heure des personnes âgées quand tu m'as dit tu vas dans les EHPAD. Tu parles avec elles, avec ces personnes âgées et que tu leur redonnes un peu de, tu vois, un peu de chaleur dans le cœur, etc.
Leur
tu leur fais
de sens à la vie,
un peu de fraîcheur. Voilà.
J'aime bien parce que je sais que c'est des personnes qui sont dans les EHPAD, c'est difficile. EHPAD, hôpitaux, tout ça, c'est difficile pour elles, toutes les personnes âgées. Mais moi, j'aime bien leur faire une petite blague, j'aime bien, tu vois, les sourire, tu vois. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de comme ça, je suis quelqu'un.
Ben bravo, tu leur remontes le moral à 25 ans.
Voilà, j'aime bien remonter le moral, tu vois.
À 25 ans, regarde. La maturité que tu as acquis. Eh ben, écoute, bravo, tu es sérieux, tu travailles. Bravo. Tu vois ce que je veux dire? Bravo, tu as fait une belle résilience. Et moi, je pense que tu iras loin. Moi, j'aimerais bien suivre ton parcours et que tu m'écrives pour me donner toujours des détails de ta vie. Et j'aimerais tellement, je prierais très, 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 très fort pour toi, pour que vraiment la lumière, elle soit vraiment vraiment devant toi sur ton chemin. Et tu le mérites, Hakim.
Ben, moi, je t'avais envoyé un message.
Tu m'as envoyé?
Sur
Vanessa @beurrefm.net ou Facebook? Ah, Facebook.
Sur Facebook.
Lequel? Parce qu'un des quatre. Alors, je sais pas lequel. Il y en a un où je suis active.
Là, t'as mis tout à l'heure par rapport à ton émission Confidence.
Ah oui. Ou là où je suis avec les chiens.
C'est ça.
Ah oui, d'accord. Ben je vais regarder.
Voilà.
Et tu as signé Hakim?
Il y a mon nom sur le truc.
Ton nom c'est Hakim sur le truc ou autre?
C'est Hakim, ouais.
D'accord. Parce que je le vois pas, c'est bizarre. Hein. Je le vois pas, Hakim.
Tu sais.
Je le vois pas sur Messenger, c'est ça?
C'est ça, c'est sur Messenger.
Est-ce que tu peux m'en renvoyer tout de suite un message, comme ça je vais le voir?
Regarde.
Ok, je vais regarder, il faut que je reste en contact avec toi. Il faut pas que je te perde de vue, toi. Hein. Je t'embrasse, Hakim. Je t'embrasse, je te souhaite une excellente soirée, envoie-moi un message. Ah, c'est mon petit protégé, ça y est. Bah oui, mon petit filleul. Allez, 01-53-48-3000, on marque une petite pause, à tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Au 01 53 48 3000, le standard de Beurre FM, chers amis. Parle très bien ce garçon, hein. Vraiment, Hakim parle très très bien, vous voyez, comme quoi, hein. Parce qu'il a été adopté, tout ça, on lui. Ouh là là, on l'accule avec des mots, mais alors vraiment compliqués. On le rappelle toujours à sa condition d'adopter, etc. Enfin, vraiment, vous voyez, regardez, c'est magnifique, hein, comment il parle, comment il avance dans la vie. Il a fait une belle résilience et c'est tant mieux. Voilà, on parlait de cette pauvre vieille dame et de l'éducation, et ça y est pour beaucoup. Bien sûr qu'il y a des parents qui sont très bien. Bien sûr, des fois, il y a des parents, c'est pas de leur faute, mais je suis désolée, hein. Un enfant qui commet des trucs comme ça. Non, non, non. Quand on est vraiment derrière les enfants, quand même, il y a des choses, quand on leur apprend les valeurs des personnes âgées, machin et tout, comment, tu vois, c'est pas possible. Alors, 01 53 48 3000. On a Faïza qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Faïza. Bonsoir, Faïza.
Comment vas-tu? Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue, Faïza. Bien, ma chérie,
merci,
toi.
Merci, merci. Bon, oui. je vais détendre l'atmosphère un petit peu. Tu veux bien?
Ah ben écoute, tu fais ce que tu veux. C'est votre radio, c'est votre émission. Allez-y.
Voilà, alors je voudrais parler d'un film algérien. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler sur Beurre FM. Mm-hmm. Il faut absolument en faire la publicité. Le film La Dernière Reine.
Non, je ne connais pas.
Alors, il est passé, donc j'ai eu la chance de le voir hier en avant-première à l'Institut Monde Arabe.
Mmh.
Il s'appelle El Akhira, ce qui veut dire la dernière en arabe, et c'est La Dernière Reine. Et en fait, ça parle, alors, on ne sait pas si c'est vraiment réel ou si c'est une légende, peu importe. Elle aurait existé, et c'est la dernière reine d'Alger.
Mmh. D'Alger, elle s'appelait comment?
Zafira.
Ah ouais, d'accord.
Voilà, donc c'est un film magnifique, mmh, avec des costumes somptueux,
ah oui,
des décors, les acteurs formidables. C'est de la grande, du grand cinéma et algérien, attention.
Bah écoute, merci pour l'info, hein.
Voilà, donc il sort.
Je note. Alors, ah oui.
Voilà. Donc c'est El Akhira.
Ah ben c'est sûr que sur Beurre FM on va en parler, ça c'est certain. Je pense que voilà. Philippe Robichon, mon collègue, parle beaucoup de tout ce qui est culture, etc.
Oui.
Voilà, donc certainement que dans son émission il va en parler, à mon avis.
Oh, voilà.
Oui. Ouais.
Donc alors il va sortir bien sûr en Algérie, je sais pas.
Ou alors Samia aussi, oui. Samia Messaoudi aussi, qui
d'accord,
parle.
D'accord.
Oui. Donc il y a deux.
Oui, ben je pense que, parce que bon, hier il y a eu il y a des gens. Comment dirais-je, des radios, de la télévision qui étaient invités, donc je pense que peut-être qu'ils étaient là.
Est-ce qu'il y avait un défilé de mode?
Oui, tout à fait.
Samia m'en a parlé aujourd'hui, elle était là-bas pour Beurre FM. Aujourd'hui, ma collègue Samia Messaoudi qui était là, qui est en train de préparer une émission là-dessus pour ça justement. Elle m'en a parlé ce matin, c'est vrai, effectivement.
D'accord.
On s'est croisés juste après les petites annonces et elle m'a parlé de cet événement. Oui, effectivement.
En fait, c'est un événement puisque ça a duré toute la journée. Il y a eu une exposition de couturiers algériens.
Oui, elle m'a dit un super défilé. Elle m'en a parlé. Elle avait des étoiles dans les yeux.
Oui, le défilé, c'est je sais pas si tu la connais, c'est la grande couturière algérienne Yasmina.
Ah bah oui, qui connaît pas Yasmina.
Voilà.
Ah.
Il y a eu avant, il y avait une exposition sur des nouveaux, enfin des jeunes créateurs algériens.
Oui.
Ça c'est l'exposition.
D'accord.
Ensuite, il y a eu le défilé vers 17h.
Ouais.
Et le clou, la cerise sur le gâteau, c'était le film quoi,
le
à 18h.
Oh, écoute.
On avait les larmes aux yeux.
Wow.
Tellement. Alors, ça parlait en toutes les langues. Il y a des langues qu'on ne comprenait pas, c'était sous-titré, bien sûr. Mm-hmm. Donc, c'était ça qui était formidable, c'est que c'était en Darja.
C'est en de l'arabe algérien. Donc, c'est. Oui.
Ah, bah
écoute,
oui.
Ça vaut la peine. En tout cas, merci pour l'info, mais Samia Messaoudi va certainement en parler, puisque c'était elle qui représentait Beurre FM. Ce week-end, elle y était. Elle m'en a parlé tout à l'heure rapidement. Moi, je partais. Et puis, elle m'a dit, oh là là, faut que tu... Oh là. Elle m'a parlé, oui, effectivement.
Alors, je vous donne une date à tous les auditeurs de Beurre FM. Il sort en France le 19 avril.
19 avril, parfait.
À ne pas rater.
Ah bah écoute, moi, je note. Hein.
Voilà.
Ah ouais, ouais, ouais.
Voilà. Alors apparemment, on a posé des questions. Est-ce qu'il avait ses chances aux Oscars? Alors,
pourquoi pas?
Dire, malheureusement, non.
Ah bon?
Oui, mais le problème.
Ah
oui,
ouais.
En fait, c'est une question de date, je pense, puisque c'est le film Les Frangins de Rachid. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Rachid, le grand réalisateur algérien. Bref, il a fait un film sur Malik Houssekine.
Ah oui. Donc,
Rachid.
Alors attends, oui, ça me dit quelque chose. Sur je me rappelle du tournage déjà. Rachid Bouchareb.
D'accord. Bouchareb.
Voilà, oui, il en parlait pendant il y a un an, je crois, ou deux ans de tournage.
Voilà.
Ouais,
super le film que j'ai vu aussi. Et là, c'est une histoire vraie, donc c'est autre chose encore. Hein. C'est un drame et tout.
Ouais.
Et c'est lui, apparemment, qui a été choisi pour représenter le film algérien aux Oscars, ce qui est bien aussi, hein, tant
bien
qu'on
sûr,
reste
bien
en
sûr.
Algérie.
Oui,
c'est
bien
parfait.
Sûr, bien sûr. Oui, oui. Ah ben écoute,
voilà,
c'est formidable.
Voilà.
En tout
donc,
cas,
19 avril, Vanessa.
C'est noté. Hein. Alors là, je vais te dire, je l'ai noté. Hein. En tout cas, merci un milliard de fois pour l'info, Faïza.
Bien. Je t'embrasse.
Ça change un petit peu. Merci.
Bonne soirée à tous les auditeurs.
Je t'embrasse fort aussi.
À bientôt.
À bientôt. Au revoir, chers amis. Ben, on retient, hein. Ah, ouais. Donc, on a deux films, là. Nos frangins, de Rachid Bouchareb. Et on a la dernière reine, donc, de. Alors, ah, ben, ils sont deux. Hein. Oui. Alors, ils sont deux acteurs, mais de qui? Alors, paf. Je vais vous dire qui tout de suite. Donc, la légende. Non. Alors. Réalisé par Damien Ounouri et Adila Bendi Merad, avec Adila Bendi Merad, Dali Ben Salah, etc. Mais à voir, hein. Merci en tout cas pour l'info. Merci Faïza, vraiment. Moi, ce week-end, ce que j'ai regardé, alors ça, hier soir, vraiment, c'était sur la 5. C'était terrible. J'en ai pleuré, j'ai versé les larmes de mon corps, la vérité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré autant. C'était Afghane. Un reportage sur l'Afghanistan, sur les femmes afghanes actuellement. On a tendance à oublier, vous savez, parce que bon, comme je dis toujours, hein, une info balaye, voilà, arrive. Il y en a une autre qui arrive et elle balaye la précédente, etc. Enfin bref, on cache une. Et donc c'est un documentaire qui a donné la parole aux femmes, à ces femmes afghanes, ces femmes, comme elle dit, effacées par le régime taliban. Je peux vous assurer que c'est l'horreur. Faut pas les oublier. Vraiment, ne les oublions pas. Vraiment, il faut regarder du côté de l'Afghanistan ce qu'elles vivent, parce que ça aurait pu être nous. Vous voyez, c'est pas, elles ont pas choisi de naître dans ces endroits, et naître filles dans ces endroits-là. Oh, c'est l'enfer. Il vaut mieux pas venir au monde, hein. C'est l'enfer. C'est-à-dire que l'enfer là-haut, c'est rien à côté. C'est horrible. Vous voyez, il y a une mère qui parle, qui a des filles, qui a ses enfants. Bah oui, parce que les maris, bon, ils font des gosses et tout ça. Enfin, il y a rien, pas de pile. Rien, c'est la misère, c'est de la misère sur la misère. Elle a 21 ans, elle a 6 enfants déjà, pour vous dire. Et puis il y en a 3, alors 3 ou 4, elle a 3 filles ou 4 filles, je ne sais plus, des garçons, et 3 ou 4 filles qui sont déjà vendues. C'est-à-dire qu'il y en a une, elle a à peine 2 ans, et déjà elle est vendue. Alors elle reste chez elle jusqu'à un petit peu qu'elle marche, l'âge de 9-10 ans, puis après elle part chez le mari, je ne sais pas quoi. Quelle horreur, vous vous rendez compte? Non mais c'est terrible, hein. Ils les vendent parce qu'ils n'ont pas, de quoi nourrir, se nourrir. Ils sont dans une misère totale. Les talibans, ils ont... C'est l'enfer. C'est l'enfer, quoi, sur Terre. C'est l'horreur, ce qui se passe du côté de l'Afghanistan. Il faut le voir pour le croire. Donc, il faut regarder ce reportage sur la 5. Donc, en replay, c'était hier, le 12, hier à 21h. Donc, vous pouvez chercher sur le replay afghan. Donc, c'est un reportage qui a été fait par la journaliste qui vivait là-bas depuis 2011. Qu'est-ce qu'elle est courageuse, cette femme. Formidable. Bravo. Parce que ces gens-là, c'est des gens qui ont le cœur sur la main. C'est une journaliste, comme on dit, il y a un terme, je sais plus, libre, enfin bref, elle n'est pas tenue par une chaîne ou quoi que ce soit, elle travaille et puis elle vend ses reportages, etc. Donc voilà, et elle est juste magnifique parce que on sent l'engagement. Ouh, je fais tomber mon casque. Alors on sent l'engagé, vous voyez, la journée est vraiment l'engagé. Elle le fait vraiment avec ses tripes, puis elle prend beaucoup de risques, hein, vous imaginez. Donc elle s'appelle Solène Chalvon Fioriti, retenez bien son nom, Solène Chalvon Fioriti. Elle est extraordinaire parce qu'il y a un débat après, vous allez avoir sur le plateau. Donc on l'a vu samedi soir dans l'émission de, je sais plus comment s'appelle cette émission, avec sur la 2, Léa Salamé. Alors donc elle était invitée. Et là, regardez Afghane, le replay de dimanche 12 hier quoi, 3, voilà. Donc et cette femme, moi je lui tire mon chapeau parce que malgré les innombrables difficultés qu'elle a rencontrées, hein, vous imaginez, elle aurait pu se faire tuer et tout, enfin. Et elle a pas cessé depuis des nombreuses années, elle habitait là-bas carrément pour nous informer de ce qui se passe là-bas parce que sinon on saurait pas, voyez. Et elle nous envoie des reportages et là on a la réalité de ces femmes afghanes qui vivent dans des conditions catastrophiques. Vraiment, et ces petites filles, tout ça, c'est la misère et la mendicité, et tout ce qui s'ensuit, et puis qui se font battre par les talibans, les petites filles qui n'ont pas plus le droit d'aller à l'école, enfin, c'est terrifiant, vous voyez, elles restent cloîtrées chez elles, il y a de quoi devenir fou. Elles achètent au marché noir, les filles, les femmes là-bas, au marché noir, des anxiolytiques, tout ça, vous savez, antidépresseurs qu'elles prennent, elles prennent comme on prend des bonbons, pour tuer le temps et oublier, parce qu'elles restent cloîtrées, elles ne sortent pas, elles ne voient pas le jour, elles n'ont pas le droit d'être à l'extérieur, elles se font battre, c'est terrible, parce qu'ils n'ont plus le droit de travailler, vous imaginez, plus d'apprendre et tout, c'est terrifiant. Moi, je vous invite à regarder ce reportage. Déjà, le regarder, c'est un peu quelque part partager leur souffrance, et parce que c'est difficile de regarder ces images, mais et en même temps d'avoir conscience de ce qui se passe ailleurs déjà, et c'est une forme de bah, de soutien, de solidarité avec ces malheureuses femmes, voilà, qui sont comme nous des terriennes, mais qui sont mal nées, qui sont nées dans des endroits où il y a des monstres qui sévissent, quoi. Voilà, à dire. 01 53 48 3000. On a Nassera du 93, on a Fatima et Méziane aussi, juste après. Les autres, vous pouvez venir, il y a de la place. Hein. Bonsoir Nassera. Bonsoir Nassera.
Allô ?
Oui, bonsoir, bienvenue Nassera. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Moi, je voulais parler de l'éducation des enfants.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Oui, 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 tu as raison.
Ouais. En fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, les mamans... moi, je suis une maman de quatre enfants. J'ai deux grands qui sont finis, comme il dit.
Ils sont jamais finis, moi je te le dis. Hein. Je te dis tout de suite qu'ils sont jamais finis. Tu sais, le jour où ils seront finis, quand nous, on ne sera plus là.
Oui, non, mais oui, bah oui.
Je t'assure que c'est vrai.
Tout à l'heure. Mais c'est vrai, je suis toujours derrière, malgré tout. Alors, j'ai aussi deux ados. Hein. Alors, eux, c'est plus difficile parce que c'est une autre génération. Et parce que j'ai eu deux enfants d'une première union. Et du coup, il y a un grand espace entre les deux. Les deux ados, là.
Les deux autres naissances,
et
oui.
Du coup, je me rends compte vraiment que c'est pas évident d'élever ses enfants. Voilà la différence avec les premiers, quoi.
Il n'y avait
pas Internet, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas tout ça. Et là, c'est vraiment... C'est tout le monde qui est touché, hein. C'est pas que les enfants qui sont... Moi, je suis du 9-3, mais voilà. Moi, des fois, quand je leur demande de me donner leur téléphone le soir, mais pourquoi tu veux que tu... Bah, parce que je veux que tu dormes, je veux que tu me donnes ton téléphone. Mais il n'y a que toi qui fais ça, ils me disent. Il n'y a que toi, mais pourquoi mes copains ? Je m'en fiche de tes copains.
C'est incroyable.
Moi,
tes copains,
sa mère, elle fait ce qu'elle veut. Ouais. Moi, je veux. Mais c'est difficile. Mais
c'est dur, hein, cette époque. Hein.
Vraiment, Vanessa, mais c'est. Parce qu'il faut se battre contre. Les enfants, quand ils rentraient à la maison, ils étaient à la maison, voilà. Là, ils ne sont pas avec vous. Sont avec leur téléphone,
c'est vrai.
Ils sont pas avec vous.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Et du coup, il faut se battre contre tous ces réseaux sociaux, leurs copains, leur chat, leur je sais pas, voilà.
Ouais.
Donc c'est ça qui est difficile en fait.
Les parents sont dépassés. Hein. Les parents sont dépassés parce que voilà, c'est ça. Leurs enfants, ils leur sont l'éducation est volée par ces réseaux, hein, ces réseaux qu'on appelle sociaux, mais je sais pas ce qu'il y a de social dans ces réseaux. Hein.
Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que bon, mais malgré tout, je lâche pas.
Tu lâches pas, voilà, c'est ça.
Je suis toujours en train de m'inquiéter. Je suis dans l'école, je suis parent d'élèves. Je cherche toujours à savoir ce qu'ils font, mais c'est pas évident parce qu'ils sont malins, parce qu'il y a des choses qu'ils vous disent pas. Hein.
Ah bah oui.
On apprend des choses par les profs. Oui.
Attends, ne pars pas, Nasser. Je te reprends juste après. On a une petite pause, elle est très courte. À tout de suite.
Confidence revient dans un instant. 21h, 23h, Confidence, l'émission sans tabou avec Vanessa sur Beurre FM.
Oui, sans tabou, sans langue de bois, au 01 53 48 3000. Et on reprend avec Nassera du 93. Bonsoir Nassera. Rebonsoir. Oui.
Ouais.
Alors,
oui, donc,
oui. Alors, tu parlais de. C'est pas...
bah, de l'éducation, que c'était difficile, mais qu'il ne faut pas lâcher. Parce que moi, des fois, je m'inquiète, par exemple, quand j'ai des mots dans le carnet ou qu'on m'appelle parce qu'ils sont lycéens tous les deux. Et, et la première chose que je leur demande, c'est est-ce qu'il a été insolent ? Ah non, madame. Pas. Vos enfants, ils sont très bien élevés. Vous inquiétez pas pour ça, vous avez bien fait votre travail. Moi, quand on me dit ça, je me dis bon, ça va. Mais malgré tout, je m'inquiète. Alors, il y a les grands qui me disent, mais maman, il n'y a pas de raison. Bien sûr, ils font des bêtises, comme moi aussi, j'en ai fait, et tu ne l'as pas su.
Il y a bêtises et bêtises.
Voilà, oui.
C'est
mais
ça.
Mais il me dit, surtout, il y en a un qui est à l'étranger, c'est le deuxième, et il dit, franchement, machallah, parce que vraiment, il a eu un parcours exemplaire. Il est très loin, il est à... combien de milliers de kilomètres.
Ah ouais, carrément.
Oui, il travaille. Mais c'était son rêve, hein, c'est d'un pays d'Asie, en fait, il est en Asie. Mmh. Et franchement, il a réussi ce qu'il voulait, alhamdoulilah. Et donc, c'est un peu le modèle. Et je leur dis, regarde, votre frère, il a trimé. C'était pas facile pour lui, je sais que c'est pas évident, mais Regarde aujourd'hui, si toi tu veux avoir faire choisir le métier que tu voudras faire, alors mais qu'on te l'impose pas, que tu choisisses vraiment, et ben fais comme lui. Alors c'est vrai que c'est pas facile parce que quand ils voient leurs copains qui sortent, je leur interdis pas de sortir, mais je veux toujours savoir où ils sont et avec qui, parce que ça c'est ça peut très vite déraper.
C'est ça, justement.
Voilà, j'ai
toujours surveiller les fréquentations. C'est très très bien.
Voilà. Je suis pas avec leur papa, mais le papa il est quand même présent.
C'est bien.
Et des fois il leur prend leur téléphone et il fouille. Voilà.
C'est bien. C'est ce qu'il faut.
Je disais tout à l'heure. Voilà. On est obligé.
Oui. Non mais on est obligé. Moi je dis il faut fouiller. Faut fouiller les poches, les téléphones.
Ah
les...
ouais.
C'est pas où, sur quoi ils vont, sur quel site et tout. Non mais attendez, ça peut être grave. Et puis regardez un petit peu ce qu'ils ramènent à la maison. C'est important. C'est vrai ou pas? On ne sait pas la tentation. On ne sait pas. Peut-être il y a des copains. Et par gentillesse, des fois, fois, ils sont naïfs. Ah, ils vont faire plaisir à un copain qui leur dit tiens, tu me caches, tu peux ranger, tu me caches ce paquet à la maison. Ma mère chez moi, elle fait tout. Tu me le caches chez toi et tout ça. Allez, sois sympa et tout. Il n'y a rien, t'inquiète pas et tout. Et ils sont tellement naïfs, ils vont dire oui, peut-être que dedans, il y a des choses graves. Il y a de la drogue ou genre. C'est vrai ou pas? Donc, il faut fouiller.
Excuse-moi Vanessa, le dernier, il a fait une bêtise, il était encore au collège, hein. Et en plus il a un an d'avance, c'est-à-dire que bon, quand il était petit, il a sauté une classe.
Ouais.
Du coup, il était un peu plus jeune. Et puis quand il a commencé à devenir ado, il a voulu avant il s'en fichait d'avoir des copains, bon, il était un peu dans son monde.
Mmh.
Et puis vers l'adolescence, il a voulu à cet âge-là, c'est-à-dire que quand ils ont 12, 13, 14 ans, on a besoin d'appartenir à un groupe. On est passé par là, nous aussi.
Ouais, oui, c'est normal.
C'est-à-dire que les copains, c'est plus important que la famille, c'est vrai.
Ouais.
Donc, il a commencé à vouloir... En fait, il fallait qu'il plaise, qu'il soit accepté par
le groupe.
De son classe.
Bah, voilà.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a suivis, et il a suivi deux camarades qui l'ont entraîné.
Ah oui.
À faire une grosse bêtise.
Ah oui, oui, oui.
Ils ont été dans une pièce où il y avait les cartables des élèves et ils m'ont dit tiens, regarde, viens, on va prendre des téléphones.
Ah ouais. Et tu vois, l'effet de groupe. Hein.
Fait, j'ai eu beaucoup de mal à lui faire dire. Et finalement, il m'a dit en fait, je lui ai dit dis-moi la vérité, c'est toi qui as eu. Il me dit en fait, j'étais avec les deux et puis ils m'ont dit viens, regarde. Il y a les téléphones là et tout. Et lui, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, mais non, ça se fait pas, c'est du vol. Il a eu ce réflexe.
Oui, oui, oui. Ouais.
Sauf que.
Oui.
Il n'a pas voulu. Je me mets à sa place, c'est-à-dire, ouais, t'es mauvais, t'es pas cap.
C'est un âge
donc,
très.
Finalement, il a fini. Et en plus, ils ont profité de sa naïveté, ils les ont mis dans son cartable.
Oh là là là, là 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 là.
Et alors, bien sûr, évidemment, il s'est fait attraper.
Ouais. Mais.
Et j'ai été convoquée par la directrice, mais elle me connaissait très très bien, la directrice.
Mmh.
Et on a, bon, il y a eu plusieurs entrevues, et finalement elle m'a dit, je crois que t'es fait embrigader, un petit peu, comment dire, manipuler. C'est elle qui me l'a dit. Moi, j'ai pas voulu lui dire ça, parce qu'on croit qu'on connaît nos anges, mais peut-être ton fils. Mais finalement, elle me l'a dit elle-même, elle m'a dit, elle a fait sa petite enquête, et m'a suivi deux petits cons, alors après, il a regretté. Mais n'empêche que voilà.
Mais l'effet de l'influence du groupe, c'est hyper dangereux. Parce que ça peut faire n'importe quoi. Et
mais
on
bien
l'a
sûr.
Vu. Après,
preuve,
c'est irréversible. Il faut faire très attention. Vraiment.
Mais si je n'avais rien fait, je n'avais rien dit, il aurait pensé que c'était normal.
Oui,
il aurait continué.
Ben voilà, jamais, c'est ça.
Parce que de lui-même, il ne l'aurait pas fait. Mais voilà. J'ai dit, mais pourquoi tu l'as mis dans ton cartable? Bah oui, évidemment. Puis bon, voilà. Alors après, je me moquais un peu de lui des fois. J'ai dit, bon, toi tu te tais parce que déjà toi. T'as... Et après il m'a dit arrête maman de me dire ça. Après j'ai arrêté parce que je me suis dit non.
Oui,
que
non.
Je commence à dire tout le temps à l'accuser parce qu'en fait c'était une erreur. Il m'a dit je sais, je me suis trompée maman, j'ai fait
voilà.
Une bêtise.
Voilà.
Il a reconnu.
Voilà.
Mais voilà.
C'est ça.
Mais voilà. Mais c'est pas, il faut pas lâcher. Enfin, ce que je dis aux parents. Il faut même si c'est difficile, même si moi des fois j'en peux plus, je m'énerve même, je mais malgré tout je lâche pas parce que si je lâche
si tu lâches tu le perds. Voilà. Et toi tu lâches pas et tu as tout compris et ton fils te dit oui maman tu avais raison, je me suis fait embrigader, c'est idiot, c'est bête, mais voilà, plus jamais. Je veux dire, ça lui a servi de leçon parce que tu étais derrière, parce que tu as fait ce qu'il fallait, tu as dit ce qu'il y avait à dire, etc. Que d'autres, où les parents ne disent rien, s'il y a des téléphones qui arrivent à la maison, ou voilà, enfin, eh bien, l'enfant continue, même s'ils se font convoquer à l'école, si on montre pas plus de, comment dire, de, bah, qu'on est choqué et que de colère. Eh bien, l'enfant grandit avec ça, et puis après, un téléphone portable, après c'est quoi la prochaine étape?
Ben évidemment.
Une voiture, on cambriole après un appartement, et puis voilà, parce qu'après c'est sans fin. Parce que quand on rentre dans un groupe, on sort du même groupe pour rentrer dans un autre groupe avec les plus grands, et ça peut devenir plus dangereux, après c'est les armes, et machin, etc., etc., c'est l'engrenage. Donc il faut prendre le taureau, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes, très tôt. Et c'est ce que tu as su faire. Ce que tu as su faire parce que, parce que l'effet de groupe, hein, c'est ça aussi, hein, l'effet de groupe.
Mais évidemment.
Mais oui. Il y a des parents qui disent oui, parce que c'est les copains, machin et tout. Toi, tu dis c'est les copains, mais quand même, il est responsable et j'étais derrière lui et j'ai pas arrêté, machin, etc. Voilà. Et tu continues à regarder, etc. Mais t'as des parents, ils vont jusqu'à ce que ça arrive à comment dire, un point non-retour. Hein. Des fois, c'est très grave.
Ouais, ouais.
Et qui continuent à dire. Ouais, mais c'est parce que c'est l'influence, les copains. Mais non, mais
oui,
si vous avez,
pas lui,
si vous avez, faute. Voilà, mais si vous avez été derrière lui, comme toi, tu as fait avec ton fils, oui, la première fois, il a été influencé, mais pas, mais la deuxième fois, non, non, voilà, non, pourquoi? Parce que on a remis les choses en place, et on a expliqué, et tu as fait ce qu'il fallait pour. Mais il faut que les parents soient vigilants. Bon,
voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Écoute, en tout cas, bravo, hein. Bravo, chapeau et bon courage.
Merci, Vanessa. Et bon courage.
Merci, Nassera, je t'embrasse fort. À bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir. Et oui, voilà, Nassera. Ben oui, parce qu'on n'est pas, des fois, les enfants, tous les enfants passent par un moment où ils font une bêtise. C'est sûr. Pourquoi? Parce que c'est l'effet à la raison. Parce que les copains, allez, t'es pas cap et tout, t'es une mauviette et ceci, t'es cela. Donc, ils sont gênés. Donc, ils veulent, ils suivent le groupe. Ils suivent. Bon, tant que c'est des trucs pas graves. Voilà. C'est grave, mais pas aussi grave que ça pourrait l'être. Voyez-vous? Là, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas d'armes, il n'y a pas. Ils ont pris deux, trois téléphones. Ils les ont remis. Heureusement, ils les ont retrouvés. Donc, ils ont été, remis à leur propriétaire. Tant mieux. Mais au moins, son fils, Anastera, a compris la leçon. Qu'il fallait pas suivre les gens, que c'est pas comme ça que ça se passe, et etc., etc. Voilà, il faut être derrière. Il faut une erreur une fois, mais il faut les rattraper pour plus qu'ils recommencent. C'est ça qui est important. Parce que après ça, bah, il y en a, après, bah, tu viens, tiens, je te donne un billet, tu vas vendre, tu fais le chouf, là, tu surveilles si, voilà, ils surveillent, pendant que les dealers vendent, et après, après lui-même, il va dealer, après, il va cacher la drogue, après, hop, 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 l'engrenage, et puis on voit, après, hop, ça se tire dessus, et de temps en temps, il y en a un qui meurt et tout. Non, mais c'est l'horreur, hein. Ah, c'est l'horreur. Donc, il faut être vraiment derrière les enfants. Vraiment, vraiment, vraiment. Séverine, bonjour. Méziane, tu quittes pas, je te prends juste après. Il y a Safia aussi. Fatima, je sais pas où elle est passée. Bonsoir, Séverine.
Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, ma Séverine, bienvenue.
Comment ça va? C'est la première fois que je t'appelle.
Eh ben écoute, ça me fait plaisir pour une première fois. J'espère que ce ne sera pas une dernière.
Ah ben, je sais pas, mais j'ai pu attendre 5 ou 10 ans parce que... Enfin, bref, quoi.
T'as attendu longtemps, alors, tu me dis, toutes ces années.
Oh oui, ben ça fait depuis 2000 ou 2010 que,
oh là
que
là.
Je t'écoute.
Ah ouais, d'accord. Et c'est aujourd'hui que t'appelles. Bon, ben pourquoi? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui?
Oui, c'est dingue, hein.
Il se passe quoi aujourd'hui? C'est un jour spécial, 13 mars
Non, comme ça m'a passé par la tête, et puis voilà. Quoi.
Eh ben, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir, Séverine. Et tu voudrais nous partager quoi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on... De quoi tu... Qu'est-ce qui te...
Eh ben, je vais te dire, moi, je suis célibataire, j'ai 54 ans et je suis toute seule.
Ah ben, t'es tranquille. T'as un chat, t'as un chien, t'as quoi?
Non, j'ai rien du tout.
Ah ben, c'est un petit chat. C'est... Un petit chien, c'est bien, parce qu'un chat... Moi, si j'avais un chat, je deviendrais folle. Tu sais pourquoi? Parce que je vois les gens qui ont des chats. Les chats, ils sont toujours dehors. Moi, l'autre fois, je disais à ma mère, parce que ma mère, elle a deux chats. Je lui dis, moi, si j'avais des chats, comment t'expliquer? Je passerais ma vie mes nuits dans la rue, à courir derrière. Minette, Titine, je sais pas comment je les appellerais. Mais je courrais toute la nuit, parce que tant qu'ils sont pas rentrés, je dors pas. C'est comme ça que je suis. Alors donc, j'ai des chiens. Les chiens, ils sortent pas, alhamdoulilah. Ici, ils sortent avec moi. Voilà. Après, ils rentrent. Prends un petit chien, c'est mignon. Séverine. Petite Séverine, tu entends? Allô, Séverine. Allô, la terre. On est là.
Je crois qu'elle a un problème de téléphone.
Ouais, je sais, c'est pour ça que je parlais. Je me blais parce que je j'entendais plus le son. J'entendais bien qu'il n'y avait plus de souffle derrière. Séverine. Allez, rappelle-nous, Séverine. Tu rappelles, hein. C'est la première fois, la pauvre, elle appelle. Et paf. Peut-être qu'elle est intimide. Tellement elle est intimidée, tellement elle est... Voilà, tellement elle est contente, elle n'arrive plus à parler. Allez, Séverine, on t'attend. 01-53-48-3000. Zoul. Et on prend Safia juste après. Les autres, on vous attend. On a beaucoup de sujets, là, ce soir. Ah ben voilà. Les gens, ils disent Zoul, ils disent bonsoir, et lui...
Ah, pardon, vous avez entendu. Bonsoir, Vanessa.
Bonsoir, Méziane. Qu'est-ce qui t'arrive? Bonsoir, t'as un article de la mort, Anthony. Là, hein.
Comment ?
C'est à l'article de la mort, là. C'est à la fin.
Oui, je suis sur le chemin, ouais.
C'est le début, là, ou la fin ?
Oh, je sais pas. Je crois que je suis au milieu du chemin, là.
T'es au milieu du chemin ?
Ouais, ouais.
Oh, ça va si t'es au milieu. Parce que moi, j'ai dépassé le milieu.
Faut pas que j'accélère, parce que sinon, je vais arriver trop tôt.
J'ai dépassé, moi, le milieu, donc...
Ouais, dis donc, ouais. Vanessa, toi qui es très intelligente.
Ah oh, non, dis pas ça, c'est pas vrai.
Ouais, tu es belle et intelligente.
Alors, ah oui, là, oui, je préfère.
Pour pleurer.
Là, Diane, il n'y a que moi qui peux dire ça. Hein. Fais gaffe, c'est de la concurrence.
Ah, pardon.
T'as vu ça.
Bon, alors, t'es pas belle et t'es pas intelligente.
Ah bon, écoute, tais-toi alors. Ça y est. Allez, va-t'en, Méziane. C'est fini, je t'ai raccroché. Hein. Bon, voilà. Méziane, blague à part.
Oui,
qu'est-ce que tu veux dire?
Blague à part. J'ai entendu tout à l'heure Faïza qui parlait de l'Institut du monde arabe avec le film dont elle a parlé, là.
La dernière reine.
La dernière reine, ouais, ça doit être. Moi, j'aurais bien allé le voir, ouais.
Ah oui.
C'est le 19.
19 avril. Hein,
19
ça.
Avril, ouais. 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 Mais à l'Institut du monde arabe, toi, tu as dit que tu avais une collègue qui avait dit qu'il y avait un défilé de mode, je sais pas quoi. De...
Il y avait aussi un défilé de mode qui passait hier, tout a eu.
Oui.
Tu étais? Non.
Non.
Ah bon?
Non, mais je vais y aller parce que. J'ai entendu à la radio, je ne sais pas sur laquelle,
ouais.
Il y avait une artiste qui s'appelle Baya.
Ah oui, Baya, oui.
1947,
oui.
Hein, c'est oui. Pas aujourd'hui.
Oui,
hein.
Oui.
Qui est une peintre.
Oui.
Artiste-peintre.
Absolument. Qui est l'amie d'une amie à moi qui s'appelle Hassina, qui est, tu sais, la directrice de Salama.
C'est l'équivalent d'un peintre tel que Matisse. Ouais. Matisse, ouais. Bon, pour les connaisseurs. Moi, je connais que de nom, hein. Je suis pas...
C'est bien, tu connais.
Je suis pas un érudit, non.
Ah bah si, c'est sûr.
Mais bon, de loin, comme ça, je m'intéresse. Mais bon, je suis pas...
Ah ouais.
Pas très cultivé dans l'art.
Ah, oh ben bah, écoute, personne n'est vraiment cultivé. Quand tu regardes à la télévision, tu as l'impression qu'ils connaissent tout. Mais en vérité, ils apprennent par cœur, ils connaissent un peu de chaque chose.
Il y en a qui sont un peu, qui suivent d'une manière assez assidue.
Ça dépend quoi. On peut pas tout suivre, Méziane. Tu peux être dans un domaine et pas dans un autre. Tu comprends?
Ah, bien sûr.
Voilà, on peut pas tout connaître, c'est pas possible.
Et alors, et paraît-il que donc c'est une artiste, mais alors c'est un don, vraiment un don. C'est pas, elle a pas été dans une école pour un truc comme ça. Hein.
Ben écoute, parfois il y a des...
Non, à 16 ans, elle a fait des tableaux, enfin des toiles extraordinaires.
Oui, oui. Alors, c'est magnifique.
C'est extraordinaire. Hein,
oui, c'est qu'elle peint un pisser.
Il va y avoir une exposition à Marseille aussi, bientôt.
Ah.
De cette même artiste. Hein. Et... Bon, c'est pas parce qu'elle est kabyle, hein, mais disons que moi...
C'est magnifique ce qu'elle fait. Moi, j'avais vu une exposition de Baya à Alger, comment ça s'appelait, Bastion. Oui. Alors, il y a un lieu qui est magnifique, qui s'appelle à Alger, où il y a des expositions, c'est Bastion, je sais plus ce que c'est, Bastion... Alors, Bastion, je vais dire une bêtise, qui donne sur la baie d'Alger... C'est juste... alors, attends, il faut que je le retrouve. Hein, ça. Il faut y aller parce que souvent, il y a des expos là-bas. Hein. C'est le palais des Raïs, tu sais, des... Comment on appelle ça? Des
rois, des présidents.
Ottomans. Non, c'était pendant...
Voilà. À l'époque ottomane, oui.
Ottomane, voilà, exactement. C'est juste... Bastion 23, ça y est, j'ai retrouvé.
Ah,
j'allais dire, Betty, le numéro, je ne me souviens plus, Bastion 23, c'est le palais des Raïs. Alger, où il y a souvent des expositions de peinture. Il y avait l'exposition de Baya, j'avais vu.
Ouais. Ben moi, j'ai vu une exposition, incidemment, hein, je n'ai pas été exprès pour voir ça, à l'hôtel, comment il s'appelle,
Nourassi ou Al-Jazeera?
Non, non, un autre qui est très connu de l'époque déjà de la France.
Alors la France, c'est le Jazzaïre qu'on appelait Saint-Georges.
Ah, Saint-Georges, voilà, le Saint-Georges.
Pendant
voilà,
la France, et après l'indépendance, c'est El Jazeïre.
Moi, j'étais allé au Saint-Georges. J'étais allé au Saint-Georges juste pour aller boire un thé.
Oui, oui. Il est très beau, hein, cet hôtel El Jazeïre maintenant. Il est magnifique, voilà. Magnifique.
Et il y avait une exposition dans une salle.
Oui.
Il y avait une exposition de choses artisanales, des objets anciens.
Ah oui.
Mmh. Et le gars, c'était le qui était responsable là, de cette salle-là, de ce voilà, ce salon, disons.
Oui.
Il m'a dit, on s'est fait dévaliser depuis l'indépendance, tu ne peux pas savoir. Quand je dis dévaliser, des gens qui ont acheté des des produits.
D'accord.
Et c'est pas des Algériens.
Ah oui.
Bah, écoute, il m'a dit on avait des choses qui étaient très jolies, très belles, comme tous les pays en ont.
Bien
hein.
sûr, bien sûr.
Mais il m'a dit on s'est fait avoir, on a vendu beaucoup de choses qu'on aurait dû garder parce que maintenant c'est pour nous c'est perdu.
Mmh. Il y a le musée Bardot où il y a de très belles choses. Hein. Alger des tableaux, des musée Bardot à Alger qui est juste magnifique aussi. Hein.
C'est pas Brigitte Bardot non.
Non le Bardot.
Non, j'ai bien compris.
Ah oui. Donc, c'est vraiment un joyau. Hein. C'est magnifique, hein, le Bardot.
Mais le, comment on appelle ça
Il y en a un aussi à Tunis, le Bardot.
Ah oui. Il y avait eu un attentat.
Oui, effectivement. Ouais. À Tunis, oui. Oui, c'est vrai.
C'est un très beau musée.
Oui.
Bon, moi...
Sinon, je te reprends juste après cette petite pause, Méziane. Safia également, Fatima, je ne sais pas où tu étais là, tu as disparu, et les autres, on vous attend. Venez, on est là jusqu'à 23h. Allez, on se réveille, 01 53 48 3000. On a abordé plusieurs sujets ce soir, donc au choix, d'accord? Allez, faites-moi plaisir, remplissez-moi ce standard. À tout de suite.
Confidence, reviens dans un instant.
T'as peur, tu seras riche, t'as peur.
Bah écoutez, magnifique chanson de Claudio Capeo. Magnifique. Moi, j'adore cet artiste. Vraiment, il est de la trempe des anciens, de Brassens, etc. Tous ces chanteurs à voix, tous ces chanteurs surtout à texte. Ce qui nous manque aujourd'hui, des textes purs, des textes propres qui sortent vraiment des tripes de l'auteur, hein, du poète, voilà, et qui font grandir, en tous les cas, la chanson française, comme on aime, comme on aimait, qu'on aime aussi, hein, vraiment. Alors, si un retour aux sources, un retour aux paroliers, eh bien moi je dis bravo, j'applaudis des deux mains, des deux pieds, tout ce que vous voulez, vraiment, c'est magnifique. Moi, j'adore ce chanteur. Et on sent l'émotion dans sa voix, et comme les autres, hein, Brel, qui l'ont précédé, comment Michel Berger, etc. Voilà, ces artistes qui nous manquent. Moi, pour être honnête avec vous, je me reconnais plus trop, mais bon, je suis d'une génération, bien sûr, plus trop dans les chansons d'aujourd'hui. Ça me parle pas vraiment, donc je reste accrochée toujours à cette nostalgie, et je remercie en tous les cas ces jeunes, ces nouveaux chanteurs qui nous plongent dans un passé pas si lointain finalement, et qui ont gardé cette fibre et cette sensibilité. Voilà, donc merci à eux, vraiment. Et on souhaite un prompt rétablissement à Céline Dion, cette grande artiste vraiment, et qui en est une, hein, vraiment une vraie artiste, hein, vraiment dans toute sa splendeur, et qu'on aime tant de par la voix, les paroles et la sensibilité aussi, et qui traverse des moments difficiles. Donc on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement, et à Florent Pagny aussi, auquel on souhaite un prompt rétablissement. C'est un grand auteur aussi, un grand artiste, pareil, de la même trempe, et qui traverse des moments difficiles en ce moment, les aléas de la vie, la maladie... Eh bien, on lui souhaite vraiment de recouvrer la santé. Voilà, pour lui, pour ses proches et pour nous aussi. Voilà, 01 53 48 3000. Alors, ce week-end, avant de reprendre Méziane, alors, ce week-end, le 11 mars, eh bien, c'était la commémoration, la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme, paix à leurs âmes. Et Dieu seul sait si la France, eh bien, nous avons traversé des moments terribles, terribles. Voilà. Et ils étaient très, très, très nombreux à être tombés victimes sous les balles, les mains de ces tortionnaires, de ces monstres qui ont décidé du sort des autres. Voilà. D'innocentes victimes qui étaient là. juste pour célébrer la vie, et les autres étaient là pour les plonger dans, ben dans l'horreur, et plonger en tous les cas toute la société dans l'horreur. Voilà. Donc c'était le 11 mars, oui, la commémoration, donc c'était la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Ne les oublions pas. 01 53 48 3000, Méziane, je reprends avec toi. Donc oui, on en était où? Merci d'avoir été patient. Méziane, merci de ta fidélité. Je tenais à te le dire.
Merci, tu sais bien que je suis fidèle pour toi.
Merci, vraiment. Et c'est sincère.
Moi, je suis très fidèle, c'est vrai. Sauf quand j'oublie.
Oui, on en est tous là.
Bon.
Alors, donc...
Tu sais que dans les magasins, ils me demandent toujours si je voulais une carte de fidélité.
Ah oui.
Je leur ai dit, mais vous voulez que je sois fidèle au magasin? Il faut d'abord que je sois fidèle avec ma femme. Commencez déjà par le commencement.
Le coca, ben dis donc. Hein. Ah, mais Zia, tu changeras jamais. On t'aime.
Ah là là,
tel que tu es.
Je suis fou. Hein.
Oui, mais tant mieux. Mais
ça ne s'arrange pas avec le temps, je te le dis.
Non, mais c'est une belle folie. Restons fous.
Sinon, j'aurais voulu aborder un sujet nouveau.
Oui.
Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y a après la mort.
Ah, ça faisait longtemps. Bah écoute, après la mort, la délivrance, j'ai envie de dire. Non,
non, mais sérieusement. Je pose la question à tous les auditeurs et auditrices, qu'ils soient théologiens, croyants ou non-croyants, peu importe. Mais particulièrement aux croyants. Est-ce que vous qui êtes croyants, moi, je suis agnostique, donc je suis pas un croyant, mais...
Les croyants vont puiser dans les livres, c'est tout, mais...
Non, mais je parlons pas des livres.
Est-ce que tu peux aussi ouvrir la question et la poser également à ceux qui ont vécu ce qu'on appelle des EMI ou NDE en anglais?
Oui, pourquoi pas, éventuellement.
Parce qu'eux ont vécu une expérience extraordinaire, exceptionnelle.
C'est une autre affaire, parce que là, ça peut être discuté. Non, c'est discutable.
Bah, les croyants vont te dire le paradis et l'enfer, Méziane, tu connais l'histoire.
Ça peut être discutable.
Méziane, la réponse de tous les croyants, toutes les religions, c'est il y a l'enfer et le paradis, c'est tout. Donc il y a la réponse, elle est fermée.
Mais tu vas trop vite vers ça, tu m'as même pas laissé poser la question que tu réponds déjà. C'est pas ça que je voulais dire. Ça, bien sûr, ça, c'est connu, c'est archi connu. On l'a dit, redit, on n'avance pas. Et on ne peut pas avancer. Moi, ce que je voulais dire, quand on est croyant, on sait qu'il y a une vie après la mort, puisqu'il y a un paradis, un enfer, et ainsi de suite. Et pour les chrétiens, il y a un purgatoire. Chez les musulmans, je ne sais pas s'il y a un purgatoire.
Bah, si, c'est dans la tombe. Les tourments de la tombe, mon Méziane. L'islam a repris un peu de...
Comme c'est la période de Ramadan, bientôt.
Oui,
donc
alors
c'est des moments où on peut se poser des questions quand même.
Oui, tu peux.
Et si on fait le Ramadan, il faut quand même qu'on essaie d'avoir un peu de...
Bah, tu les as les réponses, c'est
Attends,
pas...
Attends, j'ai pas posé la question. Est-ce qu'une fois qu'on est mort, pour ceux qui sont croyants, sachant qu'il va y avoir un au-delà, est-ce qu'au moment où on est mort, on sait qu'on est mort? Est-ce qu'on a conscience qu'on est mort? Et qu'on a laissé une autre vie d'ailleurs? La vie terrestre. Une idée,
je me suis déjà posé cette question, mais une idée comme ça qui me traverse l'esprit, je me dis, tu observes un peu, il y a les expériences de mort imminente, tout ça, tu fais un mélange de tout et tu t'essayes de te faire ta propre idée, ta propre opinion. Et je me dis peut-être que, eh bien, quand on quitte cette vie, parce que pour moi la mort n'existe pas, je dis c'est quitter cette vie pour aller dans une autre dimension, parce que je crois en une autre vie ailleurs. Eh bien, quand on quitte cette vie, à mon avis, eh bien, au moment, hein, c'est ça, dans l'instant où on la quitte, eh bien, quand on voit les autres là rester pleurer, etc. Je pense que la personne, elle est tellement apaisée qu'elle comprend pas pourquoi les autres pleurent et elle n'a pas conscience de sa mort parce qu'elle n'est pas dans ce laps de temps qui est très court, eh bien, elle ne sait pas. Peut-être qu'elle essaye de s'adresser et qu'elle n'est pas écoutée et qu'elle ne comprend pas pourquoi les autres ne l'entendent pas.
Ah, d'accord. Donc, une fois qu'on est mort, on ne se rappelle même pas qu'on a existé avant et qu'on a eu des amis, de la famille, des enfants.
C'est ce que je suis en train de te dire. Si, au moment où...
On se rappelle de rien, alors.
Mais si, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit au moment, à l'instant T, au moment où on quitte son corps, l'âme quitte le corps, eh bien, je pense que quand on regarde autour de soi sa famille, ses proches pleurer, on se pose des questions, on s'adresse à eux, mais eux ne nous entendent pas. Alors on se dit, mais tu sais, on est déboussolés parce que on est complètement désarçonnés. On se dit, mais pourquoi? Voilà, je suis là, vous me voyez. Et les autres ne nous entendent pas. Ça doit, tu comprends, les autres n'entendent pas. Parce que on n'a pas conscience, je pense qu'on n'a pas conscience qu'on est parti dans l'instant. C'est pas possible. Je pense pas.
Mais non, attends, le mort ne peut pas donner un signal puisqu'il est mort.
Mais c'est ce que je suis en train de te dire, tu n'écoutes pas. Écoute-moi. Je te dis, la personne qui part, qui décède, quand la vie la quitte, quand l'âme, remonte et quitte le corps, eh bien, à ce moment-là, la personne décédée n'est pas consciente, à mon avis, hein, n'est pas consciente qu'elle n'est plus, qu'elle est morte. Alors donc, quand elle essaye de s'adresser à ses proches, par exemple, je sais pas, allez, je vais dire une bêtise, s'il y a son frère ou sa sœur ou sa mère, etc., elle va dire, maman, voilà, je suis là, tu m'entends pas? Et puis, elle voit que la maman, elle continue à pleurer, elle l'entend pas. Elle a pas conscience, donc elle est, si tu veux, la personne décédée, elle est étonnée. Elle se dit, mais pourquoi on m'entend pas? Elle doit s'adresser aux vivants. Mais les vivants ne l'entendent pas. Donc, ça veut dire tout simplement qu'à ce moment-là, je pense que pendant un laps de temps, on n'a pas conscience de sa mort.
Non, mais si on n'a pas conscience, à ce moment-là, ça veut dire qu'il n'y a rien.
Tu sais pourquoi je te dis ça?
Mais c'est ça veut dire qu'il n'y a rien. Parce que quand,
si.
Attends, que je m'exprime d'une manière plus claire. Si on sait qu'on est mort, donc on a une conscience. Si.
Non.
On ne se pose aucune question, ça veut dire qu'on est un bout de bois et le bout de bois n'a pas de conscience.
Ben non.
N'a pas de conscience.
Non. Attends. Alors, il y a la conscience. Bien sûr qu'on a la conscience quand on est vivant, mais une fois qu'on est parti,
on est mort. Je te parle qu'on est mort.
Ben quand, non, mais je te parle de ce laps de temps, de ce laps de temps. Pourquoi je te parle de ce laps de temps? Là se trouve toute la réponse à ta question. Dans ce laps de temps, je dis pas après, parce que je pense qu'il y a plusieurs phases, il y a plusieurs étapes. Tu comprends? Plusieurs niveaux. Mais le premier niveau, à mon avis, quand on quitte son corps, on n'a pas conscience qu'on est mort. Pourquoi? Parce que les personnes qui ont vécu cette expérience de mort imminente ne sont pas elles n'ont pas atteint l'étape d'après. Mais c'est juste l'étape entre la vie et la mort. Juste après, c'est quelques secondes peut-être, je sais pas, quelques minutes. Voilà, et nous rapportent leur témoignage en nous disant que, elles racontent toute la même histoire. Toutes, c'est la même histoire. Elles entendent les vivants.
Oui, attends. Ça veut dire que pour toi, il y a plusieurs étapes.
Oui.
L'étape où on est vivant, l'étape où on n'est pas tout à fait mort, mais pas loin.
On est dans le détachement.
Où on est mort.
Alors, on est dans le détachement. Alors, attention, les paroles, ont leur valeur.
Non, mais attends. Il y a où on est vivant, où on est mort. Mais entre les deux, il y a quoi?
C'est ce que je suis en train de te dire. On est dans le détachement. Et c'est pas encore tout à fait fini. L'âme est en train de partir et le temps que l'âme atteint un palier assez haut pour prendre conscience de son départ, de sa mort, eh bien, il y a l'entre-deux. Et dans l'entre-deux, il y a, c'est un peu le bug parce que on pense qu'on est encore vivant. Tu comprends? Donc, comme on pense qu'on est encore vivant, on essaye de communiquer avec les êtres autour de soi, mais ils nous répondent pas. Et on est désarçonnés parce qu'on se dit, mais pourquoi ils me répondent pas? Je les appelle, j'essaye de les toucher, mais en vérité, ils touchent pas. Enfin, tu vois, c'est tout un truc. Et ça, c'est ce laps.
Ah, c'est compliqué quand même.
C'est pas compliqué à comprendre.
Attends, la conscience, moi, je pense que la conscience, c'est la lucidité. Ça veut dire que on se dit, voilà, je meurs, je ferme les yeux et je meurs.
Mais c'est pas comme ça.
Décide de fermer les yeux.
Mais c'est pas comme
parce
ça.
Parce que je veux pas qu'on me les ferme, je préfère les fermer moi-même.
Mais Ziane, tu dis n'importe quoi. Mais Ziane,
oui.
Tu sais quoi? Tu poses des questions, mais comme tu n'écoutes pas et que tu n'es pas dans l'observation et que tu ne prends pas de recul, t'es complètement dans une t'es dans un tourbillon de grand n'importe quoi. Mais c'est ce que tu viens de dire, c'est vraiment du boulgi-boulga.
Ah, il y en a qui doivent rigoler, là. Vanessa qui dit n'importe quoi.
Mais c'est toi qui dis n'importe quoi. Moi, j'essaye au moins de trouver des réponses. Et à travers... Et les réponses, je tire pas de mon chapeau. Attends, tu sais d'où j'étire mes réponses? Ben, de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente, des EMI. Et tu sais que j'en ai vécu une, hein, entre l'âge de 5 et 6 ans.
Oui, oui, mais ça, tu sais que ça peut se discuter, ça. Hein.
Ah ben, tu peux discuter
parce
ce que tu veux.
Parce que, paraît-il, lorsqu'on est dans une fameuse mort imminente, c'est-à-dire qu'on n'est pas mort, on est dans une espèce de coma, en vérité. Et là, le
cerveau,
il déraille et il peut emmagasiner des images.
Mais non, du tout. Parce que le cerveau, justement, il y a
la mort. Tu connais la définition de la mort?
Attends.
Tu sais ce que c'est la définition de la mort?
Mais tu sais, non, mais ça c'est...
C'est l'électroencéphalogramme plat.
Oui, mais attends. Tu sais que, ces témoignages de EMI, eh bien, bousculent beaucoup les scientifiques, quand tu ne serais pas, et il y en a beaucoup qui se penchent sur la question. Et qui font des expériences.
Attends, Vanessa, s'il te plaît, est-ce qu'on t'a fait un électroencéphalogramme?
Mais Yann, je ne rentre pas là-dedans.
Ben si, parce que c'est la définition de la mort.
Non,
qu'il n'y a plus aucune activité cérébrale.
Oui, non, mais attends. Mais Yann... Quand tu sais, ils n'ont pas, aujourd'hui, on n'a pas toutes les connaissances. Ce que tu dis là, si tu veux, ce que tu dis là, même un scientifique, peut te contredire dans le sens où lui-même, il sait pas. Tu sais que les neurochirurgiens, eux-mêmes, c'est des passionnés du cerveau, et eux-mêmes, pour eux, le cerveau, c'est le plus grand mystère qui puisse exister sur Terre. Parce que le cerveau, ils n'en connaissent que quoi, 10%? T'imagines? Voilà. Alors donc, on ne sait tout.
Mais Vanessa, tu sais qu'un médecin, quand il signe un certificat de décès...
On ne parle pas de ça.
Il doit constater certaines choses.
Oui, bon. Mais on ne sait pas.
Sinon, ce n'est pas la mort.
Oui, il y en a qui ont signé, qui sont partis à la morgue et qui sont revenus.
Est-ce qu'ils ont signé pour toi?
Il y a des gens qui... Oui, ils ont signé. Ils étaient à la morgue. Je ne peux pas te dire mieux. Dernièrement, tiens, je ne sais plus dans quel pays. Le gars, il était à la morgue. Ils l'ont mis dans le frigo, à la morgue. Il s'est réveillé. Attends.
Parce qu'il faisait froid.
Non, mais pour te dire que... Bon, mais Yann, c'est très compliqué de t'expliquer les choses.
Ouais,
on va prendre Anissa et Safia. On va voir. Bonsoir, Anissa. De Nantes.
Oui, bonsoir. C'est Anissa, oui, de Nantes.
Bonsoir, Anissa.
Bonsoir, Anissa de Nantes.
Oui, bonsoir, mais Yann. Je trouve...
Tu sais que j'aime bien les Nantaises.
Bon,
les Nantais.
Bon, arrête de dire des bêtises. Alors, Anissa, qu'est-ce que tu veux nous dire? Dis-moi, ma chérie.
Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que des fois, mes Yann, je l'écoute depuis un certain temps quand même, il pose quand même des questions qui sont un petit peu bizarres et curieuses, comme si on avait vécu la mort et comme si on était revenu pour faire un témoignage, répondre à mes Yann.
Oui, quand on donne une certaine idée de ce qu'on pense, voilà. Mais on dit, on ne sait pas, c'est juste peut-être que... Alors, mes Yann, il te saute dessus voilà. En te disant, mais non, pourquoi tu dis ça? Parce que si c'était ça, mais non, mais c'est pas... Je dis pas une chose vérité.
Non, mais
il
est aussi dans la provocation aussi.
Non, donc, il cherche à comprendre.
Je voulais juste poser une question à mes Yann. Depuis quelque temps, moi, je compare la mort à quelque chose qu'on a tous vécu.
Ah.
Avant que l'on naisse, nous avons tous vécu dans le ventre de notre mère. 9 mois ou un petit peu moins. Est-ce que quelqu'un s'en souvient encore? Jamais.
Ah, si, moi, si.
Ne s'est souvenu. Dans le
moi, je m'en souviens.
Dans le ventre de ta mère.
Ah oui.
T'es sérieux, là, Méziane? T'arrêtes tes bêtises, Méziane.
Je me rappelle même quand je suis née, tu vois.
Non, arrête tes bêtises. Non, mais on parle de sérieux, là, Méziane.
Il provoque.
Ouais, là,
non, je dis pas des bêtises. Non, j'ai un souvenir diffus.
Dans le ventre de ta mère?
Oui, dans le ventre de ma mère et même le jour de ma naissance. J'ai une grande mémoire, moi.
Oui, mais enfin bon.
C'est pas une question de mémoire.
C'est une mémoire. Et en même temps, une conscience.
Écoute, moi, j'ai encore jamais entendu personne donner un témoignage sur.
Eh bien, maintenant, tu as entendu quelqu'un, c'est moi.
Oh, oui, c'est de la provocation. Là.
Mais non, d'abord, il y a une question que je voudrais te poser, puisque tu parles de naissance.
Non, mais c'est la naissance.
Tu sais qu'à partir d'un certain âge, on a conscience que la mort existe, on sait qu'on va mourir.
Oui.
Je ne sais pas à quel âge, mais on va dire 5, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais très jeune. On a conscience, tous les humains savent qu'un jour, il y a une fin, parce qu'ils voient leurs parents mourir, ou leurs grands-parents, et ainsi de suite. On a conscience de la mort, ou peut-être un animal. Mais est-ce qu'on a conscience, quand on est le ventre de, dans le ventre de sa mère, qu'on va naître? Moi, je pose la question aux, aux religieux.
Mais Ziane, ce sont des spécialistes de la religion.
C'est tout, voilà. Merci.
Voilà.
Merci,
voilà.
Anissa, je t'adore. Parce que franchement, son truc de. Je posais la question religieuse comme s'il parlait avec Dieu directement. C'est agaçant. C'est agaçant à la longue.
Non, alors, moi, je voudrais juste revenir. Moi, depuis quelques temps, je me dis, parce que c'est vrai qu'on se pose tous la question après la mort. Pour moi, la mort est un passage. Et comme la naissance est un passage.
Bravo.
Du ventre de la maman à ouais. la vie. Voilà. C'est pour ça que quand on arrive au monde, c'est un monde complètement différent. C'est une autre dimension, entre guillemets. La lumière, les cris, les couleurs, tout ça, c'est pour ça qu'après, bon, on est complètement, je suppose, c'est un choc quand on...
c'est le premier choc, hein. C'est le premier traumatisme.
Voilà. Mmh. Tout à fait. Et pour moi, la mort, c'est un passage dans une autre dimension, de l'autre côté, une autre dimension qu'on ne peut pas, en parler comme voudrait Méziane, on ne peut pas apporter une réponse aussi précise que voudrait Méziane, parce que c'est une autre dimension. Quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement actuel.
C'est ça. Voilà.
Moi, je pense que c'est ça. Voilà. C'est vrai que je m'intéresse énormément aussi aux EMI depuis quelques temps. J'en vois un petit peu moins parce qu'après, ça se ressemble énormément. Mais je pense que c'est ça. C'est un passage dans un autre monde, une autre dimension plutôt. Et on ne peut même pas s'imaginer, je pense.
Je suis complètement d'accord avec toi parce que je pense exactement la même chose qu'on peut pas imaginer parce que c'est un, c'est si on peut parler de monde ça c'est un autre monde cerveau. C'est une autre forme de vie
nos connaissances
voilà et qui n'a rien à voir avec la vie qu'on connaît qui n'a rien à voir avec les paysages par exemple les arbres tout ça les oiseaux tout ce qu'on connaît dans cette vie c'est complètement différent et j'avais
une autre façon de ressentir aussi parce qu'apparemment d'après les expériences de ceux qui ont vécu les EMI ce sont des ressentis, c'est comme
c'est ça.
La plupart disent qu'ils ont ressenti une espèce de d'amour, mais qui dépasse complètement le plus grand amour qu'on puisse ressentir ici sur Terre. Les lumières,
Et l'amour, moi je dirais que les gens mettent l'amour parce que ils ont. C'est vrai que la vie elle est tellement brutale par certains côtés, donc ils sont dans la comparaison, parlant d'amour parce qu'ils n'ont pas d'autres mots. Moi je parlerai pas d'amour. Je parlerai pas d'amour, mais je parlerai de plénitude, c'est-à-dire démunie de toute forme de de douleur qu'on connaît ici sur Terre et qu'on a la tête pleine.
Tu en as vécu une, d'après ce que j'ai compris.
J'en ai vécu une, j'avais entre l'âge de 5 et 6 ans. Et donc, c'est pour ça que je peux pas parler d'amour vraiment. C'est une sorte de flottement, de plénitude. Comme si tu as le lâcher prise et que y a plus tous ces souvenirs, tout ça, tu vois, tout ce qui nous,
tout ce qu'on est chargé. Ici quand on est,
Par contre, Anissa, tu sais, on nous parle de ce il y en a beaucoup, parce que ça dépend de comment on voit les choses. Il y en a beaucoup qui parlent de ce tunnel, au bout il y a une lumière. Moi, j'ai pas vu de tunnel, je me suis pas retrouvée dans un tunnel, du tout.
Hein,
je me suis retrouvée directement dans, on peut pas parler de lumière, mais on va dire dans quelque chose qui n'avait rien. C'est pas, parce que comme il n'y a pas de décor. Tu comprends? C'est pas le décor comme on connaît. Le décor qu'on connaît, t'as la lumière du soleil, t'as les arbres, etc. Mais comme c'est pas du tout la même chose, eh bien, on peut pas décrire avec des mots. Oui, effectivement, il y a comme, je sais pas, une luminosité. C'est même pas une luminosité. C'est un truc, tu vois, t'es peut-être comme, qui ressemblerait peut-être à un nuage. Enfin, je sais pas comment le nommer. Mais il y a pas de décor. Oui, pardon.
On dit luminosité parce que c'est les seuls mots qu'on peut donner.
Oui.
C'est des choses qui n'existent pas ici, sur cette dimension-là.
C'est
donc
ça.
On ne peut pas te donner de termes qui puissent correspondre. Et donc, Méziane, on ne pourra pas te répondre là-dessus.
Alors,
on n'y est pas allé, on n'est pas revenu.
Tu m'entends?
Oui, mais on t'entend. Oui. Elle t'entend.
Oui. Voilà. Moi, je voudrais poser la question à Vanessa et à toi, quand je me rappelle.
Anissa.
Est-ce que. Toi, Vanessa, par exemple, lorsque tu as vécu cette machin, est-ce que ça t'a changé d'un point de vue spirituel.
Alors, je vais te dire une chose. À l'âge de 5 ans, 5 ans et demi, on n'a aucune spiritualité déjà, pour commencer. Donc, je n'avais même pas connaissance de l'existence de Dieu. J'entendais parler de religion non plus. Donc, à 5 ans, on ne connaît pas grand-chose du monde. Donc, ouais. Là où j'ai stupéfait mon entourage, et que je sais que j'ai vécu ça, pourquoi ? Parce que, et ça, je m'en souviens comme si... Il y a des choses, je ne me souviens pas. Je ne sais même pas ce que j'ai mangé hier, pour te dire. Mais ce que, je me souviens de ce vécu, en tous les cas, de cet événement, comme si je l'avais vécu il y a même pas une heure. Alors c'est quelque chose qui est tellement frappant. Par contre, il y a une chose, c'est que voilà, où j'ai vraiment vécu une EMI, c'est mon entourage. Ma mère en parle encore aujourd'hui et elle est et bien c'est, tu sais ce que c'est le fait d'avoir dit des noms de personnes qui étaient décédées dont je n'étais pas censée connaître l'existence, qui étaient décédées bien avant ma naissance et donc ce père dont je parle de temps en temps, que je n'ai pas connu puisqu'il est décédé, j'avais 6 mois. Et on m'a tellement surprotégée. Bon, on parlait pas, tu sais, dans la famille. J'étais souvent avec les enfants, on parlait pas. J'avais un oncle et un oncle que j'appelais même papa, tu vois. Donc pas de questions à se poser. Il y avait plein d'amour autour de moi. J'avais deux mamans, la sœur de mon père qui habitait à la même maison et ma mère. Donc j'étais bien entourée. Ma grand-mère, j'avais un amour fou autour de moi. Donc j'étais pas en quête d'amour ou en besoin. Il y avait rien de tout ça. Et je cherchais pas un père, mais pas du tout. J'en avais plus qu'il n'en fallait. Je pouvais même en prêter. Tellement j'en avais autour de moi des oncles, donc j'avais pas conscience de ça. Mais par contre, quand dans cette expérience, cet homme qui était mon père est venu parce que je devais peut-être partir et que je ne suis pas finalement partie et qu'il m'a dit des choses à ce moment-là, il m'a dit que c'était mon père. Alors c'est comme si je l'avais toujours connu en plus. C'était, tu sais, comme une image de quelqu'un, pas d'inconnu. Ah bah oui, bah je le connaissais comme si je le connaissais depuis toujours. Et puis je l'aimais en plus, tu vois, je l'aimais. J'étais, si tu veux, dans une ambiance sécurisante. Donc j'étais sécurisée, j'étais prête à partir avec lui parce que j'étais sécurisée. Je ne me suis même pas posé une seconde la question. Et je l'ai aimé tout de suite et j'étais heureuse qu'il soit là, enfin. Mais bien il m'a dit que c'était mon père. Et c'était, je me souviens à ce moment-là où j'ai dû avoir, tu sais, un laps de seconde de réflexion parce que j'avais un oncle que j'appelais papa. Alors il me dit non, c'est moi, je suis ton père, etc. C'est voilà. Donc et j'étais très bien prête à partir avec lui. Et puis après il m'a dit des choses. Et puis il est parti en me disant que c'était pas pour cette fois.
Oui,
attends,
d'accord.
Alors Méziane, quand je me suis réveillée de ce que j'ai vécu, eh bien j'avais des douleurs hein, en réveillant, parce que là où j'étais j'avais pas mal hein. J'avais plénitude hein. Je crois que je flottais parce que on était à la même hauteur, je sais pas, voilà. Eh bien et puis là d'un seul coup la douleur est revenue et les bruits, je me souviens des bruits. Les bruits qui revenaient où il y avait pas de bruit, où là où j'étais, des bruits mais intenses, des cris, des bruits, et puis j'avais peut-être froid ou je sais pas, mais j'étais pas à l'aise, j'étais mal et j'avais mal. Et j'avais qu'un seul mot à la bouche, c'était papa. Ça, je m'en souviens encore. Et ma mère s'en souvient. Papa, papa. Et puis, alors, mon oncle, quand on a appelé mon oncle et tout, j'ai dit non, c'est l'autre. Et j'ai montré parmi plein de photos. Tu sais que chez nous, on aime les photos, hein. Ouh là, les portraits et tout. Des photos parmi lesquelles je faisais pas attention. Et ben, parmi toutes les photos qui étaient exposées, j'ai choisi la bonne photo. J'ai dit, c'est lui. C'est mon papa. Il est venu. Il m'a dit que c'était mon père. Il me l'a dit. Je l'ai vu tout à l'heure. Il est où? Et tout. Et puis, il me manquait soudainement. Voilà ce que j'ai vécu.
Mais alors, est-ce que, avec cette expérience, Vanessa, est-ce que ça t'a fait poser des questions? Est-ce que ça t'a renforcé dans la croyance? Ou ça t'a rien changé?
Ben, ça m'a renforcé dans ma croyance. Je crois en Dieu, de plus belle. Je crois en une autre dimension. Comme disait Anissa, ça c'est certain qu'il y a une autre dimension, parce que pour moi, voilà, ce que j'ai vécu, c'est extraordinaire. Comment cet homme que je connaissais pas, j'appelais papa, comment se fait-il que par la suite, après, j'avais des visions après, hein, pendant longtemps. Enfin bref, c'était très compliqué après pour moi. Donc j'avais des visions de personnes qui étaient décédées. Je disais leur nom. On me disait, faut pas dire, faut pas parler. Enfin tout un tralala. Donc des personnes que j'étais pas censée connaître. Bref, qui me venaient peut-être en rêve après par la suite, parce qu'après tu ne sors pas indemne de ça. Hein. Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'étais anorexique et je me retrouvais à l'hôpital tous les 2-3 mois avec voilà, vomir de la bile avec des perfusions pour m'endormir. Il fallait qu'on m'endorme. Il fallait faire une, qu'on appelle ça, une thérapie par le sommeil pour pouvoir me reposer le corps et l'esprit pour pouvoir m'apaiser. C'était compliqué, hein. Vraiment, ça a duré très longtemps. Ah oui, c'est pas, on sort pas indemne, hein, de bon, ça.
En tout cas, tu t'en es bien tiré.
Mais je suis croyante. Je crois en Dieu, je crois en une force supérieure, je crois, cas, voilà, ça j'y crois, voilà.
Mais Anissa, est-ce que toi tu es croyante? Allô?
Anissa, elle est là.
Je suis croyante, oui.
Tu crois en Dieu, donc tu te dis, il y a une éternité après la mort.
Il y a plusieurs façons de croire, hein, Méziane, au fait.
Non mais, est-ce que vous pensez qu'il y a une éternité?
C'est pas une éternité, ça va rien dire. Moi, je crois comme Anissa, les dimensions.
Les dimensions, c'est de la géométrie, ça.
Non, c'est les dimensions, ça veut dire tout simplement.
C'est pas une dimension géométrique, non.
Voilà.
Vous savez combien de dimensions il y a? Vous savez combien de dimensions il y a?
Les dimensions, c'est-à-dire non, c'est pas un nom, c'est pas une question de nombre, mais il y a plusieurs dimensions dans le sens où. Eh bien, je pense, à mon avis, que, oui. Eh bien, après cette vie.
Écoutez, Vanessa.
En tout cas, l'autre dimension, elle est beaucoup plus sereine, apaisée, mais il ne faut pas la demander. Il faut qu'elle vienne toute seule au moment où elle doit venir, hein, le plus loin, longtemps. Il faut qu'on accomplisse notre mission sur Terre.
Quatre dimensions, il y en a une qui est plus importante que tous les autres.
Il
n'y
a pas
autres.
Quatre, il n'y a personne qui a dit le nombre, c'est toi qui sors.
Si, il y a quatre dimensions.
Oui, toi, tu veux que ça
non,
soit
mais
quatre.
Ça, c'est ce qu'on dit ici, il y en a plus que ça. Apparemment, d'après. Mais c'est pas.
Combien il y en a?
Est-ce que, Anissa, toi, tu as eu après des flashs ou t'as des choses comme ça?
Ah oui, bah, tu vis avec après. Après, t'as des. Oui, il y a des formes de. Tu sais, des flashs comme ça qui reviennent. Et,
Je te parle de ça parce qu'il y a mon fils qui a une vingtaine d'années. Il n'a pas vécu. Mais par contre, depuis quelques temps, il me dit de. Ça vient de plus en plus, il a de plus en plus de flashs.
Ah oui?
Des choses. Il vit quelque chose, il vit quelque chose qui va se produire juste après.
Oui, alors ton fils a ce qu'on appelle des flashs, et les flashs, pourquoi on les appelle flashs? Eh bien, c'est très rapide, hein. C'est vraiment même pas une seconde, hein. C'est comme un flash de photo. Tchac! Tu vois, et t'as une image qui reste figée dans ta tête, dans ta mémoire, et t'essayes de comprendre ce que tu as vu. Et après, ça se produit. Donc il a un don, hein, ton fils. Hein, il a des flashs.
Mais ça l'inquiétait. Il dit, écoute, faut pas t'inquiéter. Il essaie de le rassurer. Il dit, au contraire, c'est un don.
Oui.
Essaie de t'en servir parce que ça, on sait jamais qui va te ou protéger les gens autour de toi.
Oui.
Mais par contre, quand ça lui arrive, il me dit la dernière fois, il n'y a pas très longtemps, il me dit ça m'est arrivé et c'est exactement ce qui s'est passé juste après. Il m'a dit j'étais sidérée, tout le monde me regardait parce que il était complètement sidéré, il était il sidéré de ce qu'il voyait parce qu'il l'avait vécu juste avant, dans sa tête.
Oui, il était sidéré parce qu'il n'est pas habitué et que ça lui tombe dessus. Mais rassure-le, il y a des personnes qui ont des flashs, ça existe.
Donc
il faut le rassurer et peut-être qu'il a une mission et vous aider, vous, dans la famille, ses amis, etc. Oui, ouais. Voilà, ne pas faire, faire attention à certaines choses.
C'est ça, d'essayer de maîtriser ça et au contraire, s'en servir. Dans le sens positif, si peu, quoi.
Voilà, c'est bien que tu comprennes ça et que tu puisses l'aider. C'est extraordinaire, c'est magnifique, Anissa. Anissa, on arrive à la fin, je suis désolée, quel dommage, parce que j'aurais aimé pousser cette discussion et connaître davantage les flashs de ton fils. Moi, je t'invite à me rappeler demain, si tu veux, cette semaine en tout cas, et me dire vraiment ces flashs, ce que c'est, etc. Et si on peut s'aider, s'entraider, se guider et en parler, pourquoi pas. Et d'autres personnes qui ont des flashs aussi pourraient venir nous en parler à l'antenne. Merci Anissa, merci Méziane. Désolée pour Safia qui n'est pas passée, reviens demain. Merci Anthony, on se dit à demain.
Merci, à demain. J'en profite juste pour envoyer tout mon soutien à une amie à moi qui est en train de traverser une période difficile avec sa famille. Donc Marwa, je sais que tu nous écoutes et qui adore Beurre FM et Vanessa. J'envoie tout mon soutien à elle et à sa famille.
Ben on l'embrasse très fort et courage Marois, courage. Bah écoutez, je vous souhaite une belle et douce nuit, chers amis. Hein. Faites de beaux rêves, reposez-vous bien, écoutez de la lecture audio si vous n'arrivez pas à dormir pour avoir justement de beaux rêves.
Et le FM.
Voilà, et le lendemain, bien vous réveiller. De la lecture audio, c'est très important. À chaque fois, je vous dis, écartole le pouvoir du moment présent, c'est très. Je peux vous assurer, c'est ça répare le sommeil. Voilà, et je vous donne rendez-vous demain à partir de 11h, de 11h à midi, pour vos petites annonces. À demain, je vous aime, bye.
Retrouvez Confidence tous les jours de 21h à 23h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.